Ok, donc on va reprendre à la page 26 à 1. D'accord? Donc à la fin de la page 26 à 1, on s'est arrêté dans cette zone-là la semaine dernière. Donc on ramène ce que dit la Mishnah. La Mishnah a dit « Vehi maya maskiro la acherim » dans la colonne de droite 26 à 1, ici. La Mishnah avait dit « Vehi maya maskiro la acherim » Elle avait dit que si c'était une maison qui louait à d'autres personnes. « Afilu betor habayit are elu shelo » Même si je trouve l'objet « betor habayit » dans la maison, « are elu shelo » l'objet lui appartient. Vous vous rappelez ce qu'on avait expliqué la différence, on avait parlé d'un mur, on avait dit la moitié intérieure du mur, la moitié extérieure, etc. Donc on a dit que si c'est une maison qui est louée, il n'y a ni moitié intérieure, ni moitié extérieure, même si je trouve dans la maison, are elu shelo, ils sont toujours à lui. C'est ce qu'on a expliqué dans la Mishnah. Ça veut dire que quand on dit ils sont à lui, ça veut dire quoi? Ça veut dire ils sont au dernier qui les trouve. Celui qui les trouve, il peut les prendre, il n'y a pas de problème. Non. Quelle était la question que la Gemara avait posée? Vous vous rappelez, M. Daniel?
Par rapport à l'argent qu'on trouvait à Yerushalayim
pour les... Non, ça c'était la preuve. Je rappelle. Imaginez-vous, vous allez en vacances maintenant, d'accord? Vous allez dans une maison de location. Location saisonnière. Vous louez une maison, et vous trouvez dans cette maison un trésor. Trouver quelque chose, un portefeuille. Pas de siman, rien du tout. Qu'est-ce qu'elle a dit la Mishnah? Qui c'est qui prend ce portefeuille?
Ouais.
Qu'est-ce qu'elle a dit la Mishnah?
Celui qui...
Imaya mafirola kherim, si la maison, c'est une maison qui était louée, même si j'ai trouvé dans la maison, arrêt louchelo, toujours l'objet m'appartient.
Ouais.
Très bien. L'objet m'appartient.
Il y avait dans un cas où...
L'intérieur et l'extérieur du mur.
Où il m'appartenait pas. Non, dans la maison.
Non, pour l'instant, non. Pour l'instant, si je trouvais dans la maison, il est à moi. Très bien. Qu'est-ce que pose la question de la Gemara comme question? Elle dit, mais va Amai, pourquoi? Pourquoi tu me dis que c'est à lui? L'isil batar batra. On n'a qu'à aller après le dernier. Moi, je suis en une maison, location saisonnière. C'est pas difficile de savoir qui était le dernier locataire avant moi. On peut facilement se renseigner pour savoir qui était le dernier locataire. Donc la Gemara pose la question, elle dit, l'isil batar batra. On n'a qu'à aller pour voir batar batra qui était le dernier. D'accord. Donc c'est une question logique que la Gemara pose.
Oui.
Question pose qu'a priori, c'est pas normal que tu me dises que tu peux prendre l'objet. Passe par l'autre côté, s'il te plaît. Shmuel, passe par l'autre côté ici, on a un cours, on ne dérange pas. Donc la Gemara pose la question, elle dit l'isil batar batra, on n'a qu'à aller batar batra après le dernier. C'est une question qui est logique. D'accord. On n'a qu'à se renseigner qui était le dernier locataire. On va voir le dernier locataire et c'est tout. Et on va lui demander est-ce que c'est pas lui. Là, on ne lui demande même pas est-ce que c'est lui ou pas. La Gemara ne s'arrête pas simplement à la logique, mais elle va amener une preuve à cette question-là. Elle va amener une preuve à cette question qu'il faut toujours aller après le dernier. C'est écrit comme ça. Mi lotnan, est-ce que c'est pas enseigné? Là, on est 26 à 2. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec ce maaser-là? À qui on donne ce maaser? À personne. Ce maaser, on le garde pour soi-même. Seulement quoi? La seule condition, c'est qu'il faut le consommer à Jérusalem. Pas forcément en tant que sacrifice, Jacob.
Ah bon?
Non. Que tu consommes en tant que tu consommes comme tu veux. La seule condition, c'est qu'il faut le manger à Jérusalem et il faut être pur quand on le mange. Seulement, comme les gens, de toutes les façons, venaient à Jérusalem et qu'ils avaient beaucoup d'argent de maaser, parce que bon, c'était toutes les économies de l'année, tu comprends, sur un an, la recette d'un an, le maaser chéni, ça fait gros quand même, c'est beaucoup.
Ça veut dire que quand tu prenais le maaser chéni, tu donnais pas le maaser richon?
Si, bien sûr, c'est à part le maaser richon. C'est encore 10 autres pourcents.
C'est
10%. Voilà, Rishon c'est pour les Kohanim et les Lévim.
Non, les Lévim. Ouais.
D'accord. Et ensuite, sur ce qui reste, donc c'est sur les 90% qui restent, on va rajouter, sur les 90% qui restent, on va prendre encore 10%. Donc ça fait qu'en tout, on a donné combien de pourcents?
81%. Non, il y a 10% plus voilà. 10% de 99.
Ça fait. Voilà, on a donné 19%.
On va dire.
Donc quand on donne 19%, c'est très bien.
Et après, il y a les autres années, il y avait le maaser Ani, c'est ça?
Oui, d'autres années, il y avait le maaser Ani, très bien. D'accord. Alors, donc c'est quoi le problème maintenant?
Une petite remarque aussi, c'est qu'il fallait donner 3 fois par an.
Oui.
C'est pas les
mais
économies de
toute
une année.
Pas tous les ans.
Pas tout le monde venait 3 fois par an. Hein. Et pas toujours on avait les récoltes. Les récoltes, c'est une fois par an.
C'est une obligation, non?
Oui, mais la récolte, c'est une fois par an. Ça vient pas tous les années, c'est même pas 3 fois par an.
Ouais.
Bon, ça dépend de quel fruit, ça dépend, etc.
Pourquoi ils économisaient 3 ans pour venir?
Donc il dit comme ça. Mao Chinimseu Lifne Sorare Bema. Puisqu'on sait qu'on. Je viens d'expliquer qu'à Jérusalem, il y avait beaucoup d'argent de Maaser Sheni qui traînait. surtout devant les commerçants d'animaux, parce que bon, c'était un fait que les gens achetaient avec ça des animaux pour les manger ou pour les faire des sacrifices avec. Et comme j'expliquais aussi, j'expliquais que les gens, quand ils partaient de Jérusalem, il leur restait en général encore de l'argent. Combien de sacrifices on peut faire déjà? Ça coûtait pas très cher. Donc il leur restait de l'argent, des liquides. Il restait de l'argent en liquide. Qu'est-ce qu'ils font avec cet argent? Ils ne peuvent pas le consommer chez eux. Alors ils le donnaient aux habitants de Jérusalem. Et voilà, c'est de l'argent de Matsushimi. Avec ça, vous pouvez acheter ce que vous voulez et vous allez le manger en étant pur. Et nous, la Gemara témoigne, elle dit que, dans les faits, les gens à Jérusalem, toute l'année, ils mangeaient de la viande de Maaser Sheni. Bon, pas au Prachet. Alors, Maot Shenim Tseru Lifne Sohare Behema. De l'argent qu'on a trouvé devant des commerçants d'animaux à Jérusalem. Quel est le din? Dit la Mishnah dans Maaser Shkalim. Leolam Maaser. Cet argent-là sera toujours maaser, même si c'est pas pendant la fête, même si c'est pendant l'année. Alors on vient en plein le mois de Av, par exemple. C'est pendant la fête, il n'y a pas de fête maintenant. L'argent est toujours maaser. Pourquoi? Parce que comme j'ai expliqué que la majorité de la viande qui était mangée à Jérusalem provenait de l'argent de Maaser Sheni, donc certainement que l'argent qui est tombé à côté du commerçant provient de l'argent de Maaser Sheni. On a de fortes probabilités. Donc puisqu'on a de fortes probabilités, dans le doute, qu'est-ce que je fais avec cet argent, monsieur Daniel?
Dans le doute...
On dit que cet argent est maaser. Donc moi qui trouve cet argent, qu'est-ce que je fais avec?
Je l'emploie pour le maaser.
Très bien. Donc je fais quoi avec?
Je fais des animaux.
Non, j'utilise pour moi.
Mais pour faire quoi? Je fais quoi avec?
Je mange avec.
Je mange avec. Très bien. Ça veut dire que je le garde. On n'a pas dit que c'est pas à toi. Je le garde, mais il prend le statut de maaser chéni. Très bien. Ça c'est le premier cas. Deuxième cas. Si maintenant, Béar Abaït, si maintenant c'est de l'argent qu'on a trouvé, Béar Abaït, ça veut dire dans le monde du temple. On verra en Fratosfot après, dans lequel Tosfot expliquera de quoi on parle exactement. Donc si on a trouvé Béar Abaït dans la montagne dans le monde du temple, qu'est-ce qu'on dit? On dit certainement que cet argent-là, on parle de la probabilité que certainement cet argent-là est Khoulin. Khoulin, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il est pas Kadosh. Donc on fait ce qu'on veut avec. Qu'est-ce qu'il lui explique Rachid? Rachid dit, même si on est pendant la fête, même si on est pendant les trois fêtes, que tu veux dire pendant les trois fêtes, on a de fortes probabilités que les gens se baladent avec l'argent de Maaser Sheni, on dit que de toutes les façons, on considère qu'on se base sur toute l'année. Donc puisque pendant toute l'année, d'accord, la majorité des gens qui viennent, donc on se base sur toute l'année, dans la majorité de l'année, les gens qui montent à Jérusalem, d'accord, et qui ont de l'argent sur eux, est-ce que l'argent qu'ils ont sur eux, c'est du Maaser Sheni? Non, pas forcément, pas du tout. Devant les commerçants d'animaux, peut-être. Mais les gens qui venaient toute l'année. Il y avait de l'affluence toute l'année aussi à Jérusalem. Les gens qui voulaient amener des sacrifices, qui voulaient remercier Dieu, qui voulaient faire ce que vous voulez. Ils avaient des liquides sur eux. Il n'y avait pas les cartes bleues comme aujourd'hui. Il y avait des liquides sur eux. Les liquides qu'ils avaient, c'était du maaser ou c'était de l'argent normal? C'est de l'argent normal. Puisque c'est de l'argent normal, on se base sur la majorité de l'année. Et on considère que cet argent-là n'a pas forcément été perdu maintenant. C'est pas parce qu'on l'a trouvé maintenant qu'il a été perdu maintenant. Comme c'est une montagne, il y a de la terre, etc. Peut-être qu'il a été perdu il y a quelques jours déjà, donc c'est l'argent Khoulin. Donc on se base sur la majorité de l'année. Ça c'est le deuxième cas.
Moi, c'est surprenant pour le maaser dans Jérusalem, parce que bon, la fête elle va durer, on va dire, une semaine, deux semaines, il va y avoir du... Mais après c'est fini, après le quotidien il va revenir.
Vous voulez parler des commerçants d'animaux?
Ouais.
Non, ce qu'on a expliqué c'est que devant les commerçants d'animaux c'est toujours maaser. On a dit parce que les gens de Jérusalem, toute l'année, ils achetaient leur viande avec de l'argent de Maaser. Puisque les gens, les pèlerins, avant de partir, ils leur donnaient tout l'argent qui restait.
Ah,
vous comprenez?
Donc l'argent qui possédait, c'était...
L'argent qui avait été comme... Voilà. Donc, si on a trouvé Béhar Abaït, si on a trouvé dans le monde du temple, qu'est-ce qu'on a dit? C'est toujours Khoulin, parce qu'on se base sur la majorité de l'année. D'accord? C'est fort quand même hein, de dire qu'on se base sur la majorité de l'année.
Je comprends pourquoi les gens qui trouvent l'argent auprès des commerçants des cieux, on considère que c'est de l'argent du maaser.
Parce que, très simple, parce que la majorité,
oui, non,
on se base pas sur l'instant même où on l'a trouvé. On se base sur toute l'année.
Oui, d'accord.
Alors, une seconde. On se base sur toute l'année. C'est ça un point très important à comprendre. On se base pas sur l'instant dans lequel on l'a trouvé. On se base sur toute l'année. Donc puisqu'on se base sur toute l'année, puisque pendant toute l'année, la majorité... de l'argent qui se trouve devant le commerçant d'animaux et de l'argent de Maaser, donc on considère que c'est de l'argent de Maaser. Puisque pendant toute l'année, l'argent qui se trouve dans le monde du temple est de l'argent roulé, donc on dit qu'elle est roulée.
D'accord, mais comment ça se fait que les gens qui vont trouver cet argent-là, et que c'est l'argent du Maaser, ils peuvent l'utiliser comme ça pour manger de manière simple? Ils vont rien faire de spécial.
Qui t'a dit que c'est Maaser? Tu dis peut-être
c'est ma devant le commerce de bestiaux.
Oui.
On dit que c'est Maaser.
Oui.
Bon. Donc les gens qui vont le trouver, ils trouvent de l'argent de Maaser.
Oui.
Et tu pourrais penser qu'ils ne peuvent s'en servir que comme argent du Maaser. Or oui. Là, ils s'en servent dans la vie de tous les jours, d'après ce que tu dis.
Oui, c'est ça, mais c'est
ça, ce... c'est pas bizarre.
Non,
c'est bizarre.
Quand on dit Maaser, ça veut dire Maaser Sheni.
Oui, Maaser Sheni.
Oui, oui bah, ils s'en servent de la même manière que le propriétaire aurait pu s'en servir.
Mais non. En tant que Maaser Sheni.
Ils l'utilisent en tant que Maaser Sheni.
Entre...
Ça veut dire qu'ils pourront le manger qu'à Jérusalem.
Ah, d'accord.
Bien sûr,
d'accord,
naturellement.
D'accord.
Voilà.
Je ne peux pas faire avec.
Donc on dit comme ça. Donc Bishar, donc ça c'est dans le monde du temple.
D'accord.
On se base sur la majorité de l'année. Et puisque la majorité de l'année dans le monde du temple, l'argent est roulé, donc on considère que l'argent reste roulé. Maintenant, on continue la Mishnah, Birushalayim, si on a Jérusalem, ça veut dire que on n'a pas trouvé ni devant le commerçant d'animaux, ni devant, ni dans le monde du temple, mais on l'a trouvé dans les rues de Jérusalem. Là, vous baladez, Rechov à Geoula, par exemple, vous trouvez de l'argent. Très bien. Là, on va faire la différence. Bisharim Matashana, non, les autres jours de l'année, ça veut dire quand on n'est pas pendant les trois fêtes, Khoulin, l'argent est Khoulin. Pourquoi l'argent est Khoulin? Puisque on a expliqué que la majorité de l'argent qui circule à Jérusalem n'est pas Maaser Sheni. La majorité de l'argent qui circule à Jérusalem, c'est de l'argent de Khoulin. Donc on se base sur la majorité de l'année. Mais Bishata Regel Akol Maaser. Mais si on est pendant la fête, tout est Maaser. Ça c'est pas normal. Si tu me dis qu'on se base sur la majorité de l'année, donc toute l'année il faut se baser sur la majorité de l'année. Ah, je ne fais pas la différence entre pendant la fête et pas pendant la fête. Donc il y a un problème. C'est quoi là? Donc la Gemara bien entendu soulève ce problème. Ama Rabbi Shmaya Bar Zeira. Rabbi Shmaya Bar Zeira il a dit, Maïta Ama, quoi la raison de ce que je viens de dire? Pourquoi on dit que l'argent qu'on trouve dans les marchés de Jérusalem, c'est tout, si c'est pendant la fête, c'est toujours Maaser Sheni? Il dit, oh il veut que Yerushalayim asuim le itkavet vecholyom. Il dit parce que les marchés de Jérusalem sont nettoyés tous les jours. On verra en Tosfot après pourquoi les marchés étaient nettoyés tous les jours. Il y a plusieurs raisons, d'accord. D'abord c'est par kavod pour Jérusalem, mais c'est surtout, comme explique Tosfot, c'était surtout pour nettoyer tous les reptiles qu'il pouvait avoir dans Jérusalem. À l'époque c'était des chemins de terre, il y avait beaucoup de reptiles et d'insectes. Et on voulait pas que tout ce qui est pur, on voulait pas que les gens qui marchent deviennent impurs. Donc c'est pour ça que c'était nettoyé tous les jours. On verra en Tosfot après, je vous le demande. D'accord,
oui,
ça me un peu de temps.
Tu ramènes les marchés alors que dans la Mishnah c'est marqué Yerushalayim, il n'y a pas marqué de la marché.
Où c'est?
Khoulin et Yerushalayim.
Ah voilà. Oui, il veut Shuka Yerushalayim. C'est pas moi, c'est la Gemara qui dit. Juste
non,
après.
Là, au départ.
Quand on dit Shuka Yerushalayim, ça veut dire, c'est pas exactement le marché de Jérusalem, ça veut dire les rues de Jérusalem.
Au début de notre Mishnah.
Oui.
On te parle des pièces trouvées sur le mont du temple.
Oui.
Après, on te parle des pièces trouvées à Jérusalem. Mm-hmm. On ne dit pas dans les marchés.
C'est pas les marchés, c'est les grandes rues.
Non, mais là, c'est marqué Birushalayim.
Oui, mais c'est ça. C'est la Gemara qui explique. C'est Rabbi Shmaya Bar Zeira qui explique.
Après,
il dit Oil veshuka Yerushalayim, asukim leitravet b'cholyam. Rabbi Shmaya Bar Zeira, tu dis que de quoi on parle ici? On parle des endroits à forte affluence et des endroits qui sont nettoyés tous les jours.
Donc, c'est logique.
Donc, très bien. Donc là, c'est logique. Donc, on a trois cas. Premier cas, c'est quoi? Si je trouve de l'argent devant le commerçant d'animaux, dans ce cas-là, toute l'année, c'est Maaser, puisqu'on se base sur la majorité de l'année.
D'accord.
Si je trouve de l'argent dans le mont du temple, là, dans ce cas-là, toute l'année, c'est Khoulin. Pourquoi? Toute l'année, c'est Khoulin. Parce qu'on se base sur la majorité de l'année. Dans la majorité de l'année, l'argent qui se trouve dans le mont du temple, l'argent que les gens feraient tomber, est de l'argent Khoulin.
Ouais.
Si je trouve à Jérusalem, ça veut dire dans le reste des rues de Jérusalem, des rues bien fréquentées de Jérusalem, si on est pendant le reste de l'année, pas pendant la fête, là, dans ce cas-là, on dit que c'est Khoulin.
Voilà.
Mais si c'est pendant la fête, c'est Maaser. Pourquoi tu appliques pas la règle qu'on se base sur toute l'année dans ce cas-là? Parce que Rabbi Shmaya Bar Zeira dit, parce que comme c'est balayé tous les jours, donc on considère que si l'argent avait été perdu avant la fête, avant Chol HaMoed, d'accord, certainement qu'il aurait déjà été trouvé par les balayeurs. Pourquoi? Parce que le rôle des balayeurs, nous, quand on marche dans la rue, on fait pas attention à ce qu'il y a par terre. Mais les gens qui sont en train de balayer, ils font attention, c'est leur boulot. Donc s'il y avait quelque chose, ils l'auraient déjà trouvé. D'accord, c'est leur boulot, c'est de voir ce qu'il y a par terre et de nettoyer. Donc on considère que s'il y avait quelque chose, ils l'auraient déjà trouvé. Donc moi maintenant, quand je trouve de l'argent dans les rues de Jérusalem, quand je trouve de l'argent dans les rues de Jérusalem pendant la fête, je ne dis pas que cet argent-là vient d'avant la fête et donc c'est pas de l'argent de Maaser. Je dis que s'il venait d'avant la fête, il aurait déjà été trouvé par les techniciens de surface. Donc on considère que cet argent-là, de qui il vient, cet argent-là, il a été perdu pendant Chol HaMoed, et s'il a été perdu pendant Chol HaMoed, là, on a de fortes chances, d'accord, de probabilité que c'est de l'argent Maaser Sheni qui est tombé. Donc là, c'est ce qu'a dit la Mishnah. Alors, comment on va utiliser cette Mishnah pour renforcer notre question? Rappelez-vous, c'est quoi la question qu'on a posée? On a dit, si je loue une maison, location saisonnière, d'accord, et je trouve un objet, on a dit, tu prends l'objet. La Gemara pose la question, elle dit, mais pourquoi tu te bases pas sur le dernier locataire? Pourquoi tu dis pas qu'il faut chercher le dernier locataire et au moins lui demander, est-ce que ça lui appartient pas? Tu dis, non, demande même pas. Pourquoi? Non seulement qu'il y a une question logique, mais à part ça, on a une preuve. Pourquoi on a une preuve ici? Alma, là on voit, Amrinan qu'on dit, Kamae Kamae Azlu, Veaner Harineninu. Qu'est-ce qu'on voit d'ici? C'est quoi ta raison? Pourquoi tu me dis que pourquoi tu veux pas te baser toi sur le dernier locataire? Qu'est-ce qui pourrait être ta raison? Regardez bien comment elle analyse la Gemara. Une location saisonnière, ça veut dire qu'il y a eu des dizaines de locataires qui sont passés déjà par ici. Pourquoi tu veux pas te baser sur le dernier locataire? Parce que toi tu te dis que qui me dit que c'est le dernier locataire qu'il a trouvé? Qu'il a perdu, pardon. Peut-être que c'est 5 locataires en arrière. C'est ce que tu te dis. Et si je vais aller voir le locataire, le dernier locataire, je vais lui dire, est-ce que t'as pas perdu un truc? Il va me dire, oui, j'ai perdu, bien sûr, j'ai perdu. Et il va le prendre.
Non, il va donner des
non,
des signes.
Non, c'est dans la question de la Gemara, t'as même pas besoin de donner des signes. Parce que la Gemara, dans la question, était persuadée que c'est à lui. Regardez bien comment on va utiliser cette Mishnah. Qu'est-ce qui me pousserait à ne pas aller chercher le dernier locataire? Parce que je me dis, peut-être c'est pas lui qui l'a perdu, peut-être c'est 5 locataires en arrière. Très bien. Qu'est-ce qu'on a appris dans cette Mishnah? On a appris dans cette Mishnah que quand c'est un endroit qui est amené à être nettoyé tous les jours, ou bien un endroit qui est amené à être regardé tous les jours, on considère que les gens remarquent les détails. Donc les techniciens de surface me disent remarquent les détails. Donc et tu t'es basé sur ce principe pour me dire que l'argent, si tu trouves de l'argent pendant Chol HaMoed, il n'a pas été perdu avant la fête, parce que s'il avait été perdu avant la fête, il aurait déjà été trouvé. On n'a qu'à appliquer le même principe pour le locataire? Que si tu me dis qu'il a été perdu 5 locataires en arrière, dans ce cas-là, le 4e locataire l'aurait déjà trouvé. Puisque le 4e locataire va habiter à la maison, on voit. De la même manière que toi tu l'as vu, lui il l'aurait vu. Tu viens d'appliquer ce principe pour les rues de Jérusalem.
Donc c'est bien le dernier locataire.
Donc c'est bien le dernier locataire. Donc si c'est bien le dernier locataire, on est sûr que c'est le dernier locataire.
Voilà,
donc demande-lui. Vous comprenez comment étudier la Mishnah pour poser la question? Parce que cette Mishnah de Maaseh Hatzkali nous a appris un principe que quand c'est un endroit dans lequel on remarque les détails, comme un technicien de surface qui remarque les détails, on considère qu'il n'est pas passé à côté. Donc, de la même manière, s'il serait perdu par le 5e locataire en arrière, 5 locataires en arrière, le 4e l'aurait trouvé, puisqu'il habite dans un endroit. Quand on habite dans un endroit, on voit ce qu'il y a dans l'endroit.
Quoi qu'il n'a pas dit où il a trouvé, hein?
Pardon?
Il n'a pas dit où il a trouvé.
Oui, d'accord. Dans la maison. On a dit, à filou betor abait. La Michelin n'a pas dit, même si c'est caché, même si c'est en plein milieu de la maison, même si c'est posé sur le salon. Tu le prends. Mais pourquoi? Pourquoi tu le prends? Va voir le dernier locataire. C'est sûr que c'est lui. Parce que si ça viendrait de 2 locataires en arrière, le dernier locataire l'aurait déjà pris.
Donc c'est dans un trou,
d'accord,
dans le mur.
Non. Dans ce cas-là, peut-être la question sera posée, mais la Mishnah a dit « Afilu betor habayit », même si c'est dans la maison. Donc on a un problème. On a un sérieux problème sur cette Mishnah. On a un problème, on comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire si tu me dis que je prends l'objet? Pourquoi je ne veux pas avoir le dernier locataire? Surtout que j'ai de fortes chances de dire que ça vient de sa première...
Ça peut provenir
que du dernier locataire.
C'est donc dans un cas particulier, toujours.
Eh bien, donc il faudra trouver un cas particulier parce que sinon ça marche pas.
Ouais.
Qu'est-ce qui répond la Gemara, hein? Donc dans les mots de la Gemara, Alma, Amrinan, de là on voit qu'on dit Kamae, Kamae, Azlu, Ve'ane, Acharin, et Ninu. Qu'est-ce qu'on a dit par rapport à l'argent? Que si l'argent avait été perdu, avant la fête dans les rues de Jérusalem, il aurait déjà été trouvé par les techniciens de surface. Donc l'argent qui a été perdu avant la fête a déjà été trouvé. Kamae, Kamae, Azlu, les premiers sont déjà partis. Ve'ane, Acharin, et Ninu. Et donc l'argent que tu trouves maintenant pendant Chol HaMoed, c'est achariné, c'est de l'argent récent. Donc c'est de l'argent qui provient probablement du Maaser Sheni. Ah Hanami, ici aussi, je vais dire que Kama Azil, que si c'était un objet qui avait été perdu par plusieurs locataires en arrière, c'est ces objets-là, bien certainement qu'il y a des objets qui ont été perdus, mais ces objets-là sont déjà partis. Ils ont déjà été trouvés par les locataires suivants. Donc, Vehane Devatraou, ça veut dire que ces objets-là, l'objet que moi je trouve maintenant, certainement qu'ils appartiennent au dernier locataire. Donc pourquoi je ne vais pas avoir un dernier locataire? A priori, on a de fortes chances de dire que ça appartient au dernier locataire. D'accord? De la même manière que pour le maaser, tu m'as dit que tu considères que cet argent est maaser. Là, a priori, on n'aurait même pas besoin de demander un signal au dernier locataire. C'est sûr que c'est au dernier locataire. Tu vas, tu dis, monsieur, vous avez perdu ça, je vous le rends. Tu discutes pas. C'est quoi cette histoire? Tu me dis, Afulu, Betorhabaï, t'as Réelouchelo. Même si dans la maison, Réelouchelo, c'est à lui. C'est pas normal. Il y a un problème. C'est pas logique. Donc comme a dit Yaakov, on va devoir expliquer que la Mishnah parle d'un cas particulier. Si je dis qu'elle parle d'un cas particulier, ça veut dire que si ce n'était pas ce cas particulier, le principe ne serait pas appliqué. Amar Eshlakish Mishum Bar Kapara, Boker Tov. Amar Eshlakish Mishum Bar Kapara. Eshlakish dit au nom de Bar Kapara. Kegon Sheasao Pundak Lishlosha Misrael. Qu'est-ce qu'il répond? Shlak Ish a dit au nom de Bar Kappara, il dit, on parle ici d'un cas que Asa au Pundak, la personne a loué, donc c'est le dernier locataire qui a loué, donc la location saisonnière, il a loué l'Ishlosha Nisraël. Il l'a loué à trois juifs. Donc rappelez-vous, moi je prends une location saisonnière en été, d'accord, et je trouve un objet sur le salon. Qu'est-ce que la Mishnah dit? Même si tu trouves en plein milieu du salon, tu le gardes. Tu t'occupes pas de qui était le dernier locataire. Posez la question, on a dit pourquoi tu vas pas chercher qui était le dernier locataire, hein? C'est pas normal, c'est un problème. Alors il dit comme ça, Reish Lakish, il dit quand ici, tu as raison que normalement on devrait choisir le dernier locataire. Tu as raison, c'est pas normal, c'est sûr que ça vient du dernier locataire. Parce que si ça viendrait de deux locataires en arrière, le dernier locataire l'aurait déjà pris. De quoi on parle ici? Il dit Reish Lakish, on parle ici que le dernier locataire, je sais que le dernier locataire était trois personnes, trois juifs qui ont loué. Et alors? Écoutez bien. Pardon, regardez ce qu'il dit Reish Lakish, c'est cherché, hein. Et je peux vous dire que Reish Lakish, il connaît bien les voleurs, parce que lui-même, avant de faire Teshuva, c'était un grand brigand. Donc, qui sait ce que c'est le brigandage. D'accord? Donc, Amar Reish Lakish, je suis Bar Kappara. Reish Lakish, c'est le nom de Bar Kappara. C'est un sale?
Chercher une chaise.
Ouais. Ou ici, là, comme tu veux.
Oh, c'est ta peau, je crois.
Kegon chez Asa au Pundak, l'Ishlosham Israël. Il a loué, d'accord? Il a loué, donc le dernier locataire, il a loué l'Ishlosham Israël à trois juifs. Et alors, ça veut dire quoi? Puisqu'il a loué à trois juifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si l'objet appartenait, on est en français, on est à 26 à 1. À 26 à 2, pardon. Oui.
À 2, 6 à 2.
Même si l'objet appartenait au dernier locataire, le problème, c'est que celui qui fait partie, donc celui des trois derniers, donc ils étaient trois, ils ont loué à trois. Ça arrive souvent chez les jeunes hommes quand on s'associe à trois et on loue quelque chose. Bon, on parle pas que c'est des frères qui se connaissent, etc. On parle que c'est trois personnes qui ont loué ensemble. Donc il y a un des trois qui a perdu son objet. Un des trois qui a oublié son objet, et il se rappelle, il dit, mince, j'ai oublié mon objet. Qu'est-ce qu'il se dit dans sa tête? Il se dit certainement qu'il y a un des deux qui l'a pris. Certainement qu'il y a un des deux autres qui était avec moi, un des deux autres colocataires qui l'a pris. Il va voir les autres colocataires, il leur demande, est-ce que vous n'avez pas trouvé mon objet à la maison? Ils disent, non, on n'a rien vu. Qu'est-ce qu'il dit dans sa tête à ce moment-là, nous dit Reish Lakish? Dans sa tête à ce moment-là, la personne arrive à la conclusion, il dit certainement qu'ils l'ont pris, mais ils m'ont menti. Parce que moi je l'ai laissé sur la table du salon. C'est pas possible que moi je l'ai oublié et qu'aucun des deux l'a vu. Donc dans sa tête, il a fait Yehush. Dans sa tête, il a abandonné. Vous savez ce qu'il dit Reish Lakish? Très fort ce qu'il dit Reish Lakish.
Oui, mais ça doit marcher à
chaque fois. Reish Lakish, il dit comme ça, Rashi explique. Le Ritva, il dit, enfin, Rashi le met en allusion, et c'est le Ritva qui développe. Rashi, il dit que, même s'il y avait un siman sur l'objet, d'accord? Tu peux le prendre. Pourquoi? Parce que, celui qui a perdu l'objet, il est parti voir les deux autres colocataires, il leur a demandé. Et quand les deux autres colocataires lui ont répondu, ils lui ont dit non, on n'a rien trouvé, ouais. Il s'est dit certainement qu'il y a un des deux qui me l'a volé.
Donc, s'ils avaient été deux, ça c'était pas suffisant.
Donc, bonne question. Pourquoi il faut être trois? Parce que deux, ça suffirait pas. Très bien, bonne question. Donc, c'est pour ça. En tout cas, Reish Lakish, pour l'instant, il dit qu'il faut trois. Pourquoi deux, on verra après.
Il peut avoir un doute avec un.
Mais lui, il a pas la connaissance que les anciens locataires, ils étaient trois,
que
ça s'est passé de
cette manière. Si, il sait, oui, c'est Reish
Lakish. Il le déduit.
Il dit, on sait que les derniers locataires qu'il y avait, c'était trois jeunes hommes qui ont loué.
Dans le cas où il n'y avait pas trois locataires, il y aurait un
seul. Dans le cas où il y avait un seul locataire, dans le cas où c'est une famille, la question ne se pose pas.
On le rend.
On ne demande même pas. Tu viens, tu amènes, tu dis, monsieur, vous avez perdu un objet, le voilà.
Ouais.
Donc c'est que dans ce cas précis.
Non, pas dans ce cas précis, trois et plus, simplement.
Oui, trois et plus. C'est trois et plus, d'accord. Mais au minimum trois.
Deux, il peut avoir un doute.
Alors on va voir pourquoi.
Pourquoi il a trouvé s'ils l'ont pris, un des deux?
Pourquoi?
Pourquoi il l'a trouvé, c'est un des deux.
Parce que les deux, en vérité, ils étaient honnêtes. Mais lui, qu'est-ce qu'il se dit? Celui qui a perdu, il dit, c'est pas normal. Moi, je l'ai publié sur le salon, mais on a tous fait le... Chacun a dû vérifier avant de partir, donc c'est pas normal. Il dit certainement qu'il y a un des deux qui l'a volé. Et donc, dans sa tête, il dit... Alors non, dans sa tête, il dit, si eux, ils l'ont pas trouvé, ou bien ils l'ont volé, ou bien ça veut dire que je l'ai perdu ailleurs.
Ouais.
Ouais, c'est pas normal qu'ils l'ont pas vu. Ouais. Donc dans sa tête, il se dit, ça y est, c'est fini, il est perdu. Donc il a fait Yehush. S'il a fait Yehush, moi, je peux prendre l'objet. J'ai même pas besoin d'aller les voir.
Et les trois, ils l'ont pas vu. D'accord.
Oui. Lui, il se dit, c'est pas normal. Les trois l'ont pas vu. Si les trois l'ont pas vu, ça veut dire certainement, ou bien il y a un des deux qui l'a volé. D'accord. Ou bien, je l'ai perdu. Ou bien, je l'ai perdu ailleurs. Parce que sinon, ils auraient dû le voir. D'accord, vous suivez? Bon. Donc ça, c'est la réponse de Reish Lakish. Schneck donne une réponse intéressante. Il dit qu'en vérité, la Mishnah parle de ce cas particulier. Mais effectivement, tu as raison. Si ce n'était pas ce cas particulier, si je sais que ceux qui ont loué les derniers locataires, c'était une petite famille très sympathique, qui ont perdu un objet, dans ce cas-là, l'objet que je trouve sur la table du salon, j'ai l'obligation d'aller le ramener. Même pas sans demander de signe, sans rien. D'accord? Je le ramène, je dis, monsieur, vous avez perdu un objet, le voilà. On est sûr que c'est à eux. Parce que s'il était à deux locataires en arrière, certainement que les derniers locataires l'auraient déjà pris.
D'accord. Bon.
Alors, Shmamina.
On est supposé leur faire confiance.
Oui. Non, oui, on est supposé leur faire confiance. Oui. Shmamina. Donc de là j'apprends. La Gemara maintenant elle pose une question sur sa manière de voir les choses de Reish Lakish. Elle dit, Shmamina, de là j'apprends que Allah a Rabbi Shimon ben Elazar a filou ben Rav Israël. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que on avait étudié il y a quelques pages en arrière dans la page 24. Rabbi Shimon ben Elazar avait dit que même si on trouve un objet dans un endroit dans lequel il y a une majorité de juifs, par exemple une synagogue, un endroit dans lequel la majorité des passants sont des juifs, qu'est-ce qu'on considère? On considère que les juifs ne se font pas confiance l'un à l'autre, et que certainement, si j'ai une personne qui a perdu un objet, l'a déjà abandonné. Parce qu'il se dit, un autre juif va me le voler. Ça, c'était l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar. La Gemara, dans la page 24, est arrivée à la conclusion que c'est une erreur, que la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon ben Elazar, et que quand on est dans un endroit dans lequel il y a une forte affluence de juifs, comme une synagogue par exemple, si on n'a pas de raison de penser qu'il y a des voleurs, parce qu'on sait qu'il y a des arnaqueurs, si c'est un endroit normal, comme synagogue, on considère qu'un juif fait confiance à l'autre. C'est le cas d'ailleurs. Quand j'oublie un objet dans une synagogue, je me dis pas, c'est sûr, ils vont me le voler. Non, on se fait confiance. On se dit certainement qu'ils vont le laisser, ou certainement que quelqu'un va le prendre, il va essayer de me le rendre, etc. Or, d'après ce que Reish Lakish a dit ici, ça voudrait dire qu'on suit l'avis de Rabbi Shimon ben Elazar, qui dit qu'entre juifs, on se fait pas confiance. C'est ce qu'on vient de dire, là. Entre juifs, on pense qu'on s'arnaque. Puisque, qu'est-ce qu'il a dit, Reish Lakish? Il a dit que sur les trois locataires qu'il y avait avant, le gars, il dit certainement que celui qui a perdu l'objet, il dit certainement que les deux autres me l'ont volé. Donc ils font pas confiance. Donc ça voudrait dire que la halakha serait comme Rabbi Shimon ben Elazar. Or, tu m'as dit avant que la halakha n'est pas comme Rabbi Shimon ben Elazar. Suivez la question?
Ouais.
Bon, vous prenez le train en cours de route, ça va?
Ouais.
Alors.
Donc la thèse n'est pas possible.
Et là, Amar Rav Menashe Bar Yaakov, seulement on répond Rav Menashe Bar Yaakov. Donc on va prendre exactement la même thèse, mais on va changer un détail. C'est quoi le détail qu'on va changer? Kegon Shasao Punda Klishlushov de Kochavim. Là, de quoi on parle? On parle que les trois derniers locataires, c'est les trois derniers non-juifs. D'accord? Et là, on considère que...
Idolâtre.
Oui, idolâtre. D'accord? Bon, de Kochavim, parce qu'elle est...
Tout ce qui n'était pas juif, c'est idolâtre.
On considère que les trois derniers locataires étaient des Ovdei Kochavim, étaient des idolâtres. Et alors, comme ils sont idolâtres, d'accord, dans ce cas-là, il y a deux choses. Premièrement, les idolâtres, on considère que bon, un à l'autre sans état d'âme. Et même si tu veux me dire que c'est des idolâtres, donc des non-juifs qui sont honnêtes, on n'a pas la mitzvah de rendre la perte à un non-juif. Donc là, dans ce cas-là, la question ne se pose pas. Ça veut dire comme ça. Là, c'est intéressant. D'accord? Regardez, imaginez que je trouve un objet dans un appartement, location saisonnière. Je trouve l'objet. Très bien. Bien dans une voiture de location, ce que vous voulez.
Ouais.
Donc je trouve un appareil photo posé sur la table du salon. Pas de photo, vide, pas de carte mémoire, rien du tout. Voilà, on se prend pas la tête. D'accord? Bon. Alors, je vais voir qui est le dernier locataire. On me dit les derniers locataires, c'était trois jeunes hommes, des non-juifs. Très bien. Mais on me dit, mais attention, mais un locataire en arrière, c'était une famille de juifs. De qui vient l'appareil photo d'après vous?
Des derniers ou des précédents?
Des derniers ou des précédents? Il y avait encore des autres avant.
Bah, ça va.
D'après vous, d'après ce qu'on a expliqué.
Attends,
on recommence l'histoire.
Les trois derniers ne sont pas juifs.
Voilà, je vous donne un cas. Vous allez en vacances, en été, au mois d'août. Vous rentrez dans l'appartement, sur la table du salon, il y a un appareil photo. Pas de carte mémoire, pas rien, pas de siman, rien. Même s'il y a un siman, il y a un appareil photo. Vous trouvez l'appareil photo, vous appelez le propriétaire, vous dites, écoutez, j'ai trouvé un appareil photo. Bien. Qui était le dernier locataire? Le dernier locataire, c'était trois non-juifs. Bien. Bon, on n'a pas d'obligation de rendre une perte à un non-juif. Et en plus, comme on a dit, comme ils sont trois, chacun pense que l'autre l'a volé, donc la personne l'a abandonné. Très bien. Je vous dis, qui était le locataire encore en arrière, il y a un mois? Je me dis, c'était une famille juive qui sont venus ici. Et qui était le locataire encore en arrière, trois en arrière, c'était aussi un juif. D'après vous, de qui l'appareil photo a été perdu?
La famille d'avant.
Non, on garde. Moi, je dis, on garde.
Alors justement, mais on va analyser, monsieur Daniel.
Les trois.
Les trois. Pourquoi? Parce que s'il appartenait à la famille d'avant, il aurait été trouvé déjà certainement par les trois.
Ouais.
Puisqu'il est posé sur la table du salon. Il ne l'aurait pas laissé.
Ouais.
D'accord? Donc moi, je le vois, je considère qu'il a été perdu des derniers. Puisqu'il a été perdu des derniers, est-ce que je peux le prendre?
Oui.
Oui, je peux le prendre. J'ai deux raisons pourquoi je peux le prendre. Premièrement, parce que comme ils étaient trois, d'accord? Chacun ne fait pas confiance. Et deuxièmement, comme vous dites, parce que ils sont pas juifs. Et la halakha est comme ça. Mais, si c'est un cas que je me renseigne qui était le dernier locataire, et on me dit que le dernier locataire était une famille de juifs, dans ce cas-là, je leur rends. C'est même pas je leur demande, est-ce que vous avez perdu? Je suis sûr que c'est à eux. Bien sûr, s'ils me disent, écoute, c'est pas moi, bon.
Et même si c'est trois juifs, on n'applique pas que...
Oui, bah oui.
Là,
même si c'est trois juifs, on rend quand même. Ouais. Parce qu'on a dit que trois juifs, on considère qu'ils se font confiance.
Donc ils sont pas d'accord avec la chasse.
Donc puisque les trois juifs se font confiance, d'accord? Donc le propriétaire, celui qui a perdu l'objet, ne l'a pas abandonné. Parce qu'il se dit, bon, je dis, peut-être eux, ils l'ont pas vu, mais je leur fais confiance. Il doit être là-bas encore. Je reviendrai dans quelques mois, je passerai par cet endroit de vacances et je passerai le chercher.
Donc Rech Lakish n'embarque pas, il est tout fou alors.
A priori. D'accord. Bon, donc pour l'instant.
Rech Lakish, c'est pas...
Alors, la Gemara va expliquer, justement. Amar Rav Nachman, Amar Rabba Bar Avoua. Rav Nachman a dit au nom de Rabba Bar Avoua. Il dit, lui il va essayer d'expliquer ce que Rech Lakish a dit au nom de Bar Kappara, ça marche.
Ah.
D'accord. Qu'on peut dire que c'était trois juifs. Il dit, Afil Utema. Même si tu veux, je veux te dire comme Bar Kappara, que notre Mishnah, elle parle que le dernier locataire était Shlosha Mi'Israël. Il a loué à trois juifs. D'accord? Ah, tu posais la question, tu m'as dit, mais si c'est trois juifs, dans ce cas-là, a priori, il a abandonné. Maïtama. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Maïtama. Aoud Nafal Mine Miyash. Dis comme ça. C'est pas parce qu'il se fait pas confiance. C'est pas parce qu'il fait pas confiance. Pourquoi tu me... C'est quoi la question que tu m'as posée tout à l'heure? Il m'a dit que... Qu'est-ce que la question que tu m'as posée? Tu m'as dit, on peut pas dire qu'on parle de trois juifs. Parce que si on dit que tu parles de trois juifs, alors, ça voudrait dire que celui qui a perdu l'objet, donc il y avait trois locataires, trois jeunes hommes, d'accord, de trois familles différentes, qui étaient locataires, et il y en a un qui a perdu l'objet. Qu'est-ce que tu me dis? Tu me dis, si c'était un des trois locataires qui était juif qui a perdu, il se dit que les autres certainement l'ont trouvé, et ils veulent pas me le rendre, c'est des voleurs.
Oui, d'accord? C'est pas ça la raison.
Très bien. Alors on a dit que ça peut pas être ça la raison, parce qu'ils considèrent que les juifs se font confiance.
Non, il peut penser ce que tu as dit tout à l'heure.
Que quoi?
Il peut penser que si eux ils l'ont pas trouvé, c'est qu'il a perdu.
Ah, c'est ce qu'Agmara va dire. Voilà. Agmara a dit, Maïtama, je veux te dire que c'est pas parce qu'il fait pas confiance aux autres. Il leur fait confiance. Mais pourquoi celui qui l'a perdu l'abandonne? Maïtama, pourquoi tu me dis qu'il a abandonné? Ah, ou des nafal miné miyash, parce que celui qui a perdu l'objet, miyash, il a abandonné. Pourquoi? Il se dit, même Aramar, il va se dire comme ça, mirdé, voyons. Ini Shacharina, Loava Baade et la Hané. Il dit voyons. D'accord? Il n'y avait personne d'autre dans la maison, à part nous trois. On n'était que trois. Personne d'autre qui est venu. D'accord? Amre Kamay ou Kamazine Liadrouli. Je leur ai demandé plusieurs fois de me le rendre. Je leur ai demandé plusieurs fois, est-ce que vous n'avez pas trouvé mon appareil photo? Dernier cri. D'accord? Velo Adarouli. Et ils me l'ont pas rendu. Je leur ai dit plusieurs fois, vous êtes sûr, vous n'avez pas trouvé, ils me l'ont pas rendu. Vehta Liadrou, maintenant ils vont me le rendre. Bien sûr que non. Idata yula droa à droit niali. Si il voulait me le rendre, il me l'aurait déjà rendu depuis longtemps. Peut-être qu'il voulait me faire un coup, il voulait m'embêter. Bon, d'accord. Ve'aïdelo adrouli. Et s'ils ne l'ont pas rendu, ça veut dire que... Mais idata yula mixela, c'est-à-dire qu'ils veulent me le voler. Ça veut dire qu'il se dit comme ça. Il se dit, ok, moi je leur ai fait confiance. Je me dis que c'est pas possible que c'est des voleurs. Et si tu me dis que vraiment, d'accord, donc comme la raison qu'a dit Jacob, tout d'abord... Puisqu'on a tous fait la maison avant de partir, donc certainement qu'il l'aurait vu. De la même manière que, même si moi je ne l'ai pas vu, certainement qu'eux ils l'auraient vu. Et qu'ils me l'auraient rendu. Et s'ils ne l'ont pas rendu, et qu'ils l'ont trouvé, ils l'ont volé. Donc c'est fini, on est déjà maintenant deux semaines après, c'est trop tard. Donc c'est pour ça qu'explique, Rav Nachman. Rav Nachman a dit que lui considère que quand tu trouves l'objet, tu peux le prendre même si c'est trois juifs. Donc selon Rav Nachman, même si les trois derniers locataires étaient des juifs, on considère que celui qui a perdu fait le calcul suivant. Il se dit... Si ils m'ont fait un coup, ils veulent me dire, ouais, comme ça tu laisses traîner tes objets, on va te montrer, ils m'ont fait un coup, ils me l'auraient déjà rendu, ça fait déjà quelques temps, donc ils l'ont déjà abandonné. Et il se dit, et si ils m'ont pas fait un coup, ils me l'ont volé, il sait pas maintenant qu'ils vont me le rendre. Donc il a déjà abandonné. Puisqu'il a déjà abandonné, moi qui viens par derrière, est-ce que j'ai l'obligation de rendre? Non. Puisque là, la chahé que j'ai pas l'obligation de rendre un objet si je pars du principe que certainement le propriétaire initial a déjà fait.
Déjà tu peux faire un galère romain déjà.
Alors attends, c'est pas fini.
Bazar
Abnachman est amé. Et Rav Nachman, d'accord, il va selon sa raison. C'est-à-dire que Rav Nachman, ici, la manière d'analyser les choses de Rav Nachman, ça suit la manière générale qu'il a de voir les choses dans la Gemara. C'est-à-dire, on va amener un autre cas qui n'a aucun rapport, et on va montrer que c'était la même logique qui était derrière. La même logique, c'est-à-dire que Rav Nachman, il a une certaine logique qui a fait qu'il a répondu la réponse qu'il a donnée ici, qu'on peut parler aussi dans un cas où il y a trois juifs. C'est-à-dire que c'est pas simplement qu'il a dit que pour ce cas-là, c'est une manière de voir les choses qu'il a en général. De Amar Rav Nachman. Rav Nachman a dit, Ra'a Sela. Si une personne a vu un Sela, d'accord ? Donc si une personne a vu un Sela, un Sela c'est une pièce de monnaie de l'époque, comment il traduit ça ici ? Une pièce d'un Sela, d'accord ? S'il a trouvé une pièce d'un Sela, donc on passe à la page suivante, Shenafal Mishnaim. S'il a trouvé, donc il a vu un Sela, Shenafal Mishnaim, qui est tombé de deux personnes. D'accord ? Ça veut dire quelqu'un. Alors ça veut dire quoi ? D'accord ? Suivez ? Non, la page suivante. 26B1. Donc si une personne, d'accord, il voit deux personnes en train de marcher. Je vois deux personnes en train de... Donc, imaginez-vous, je suis en train de marcher dans la rue. Je vois deux personnes en train de marcher. Et je vois une des deux personnes qui fait tomber une pièce. Il ne s'est pas rendu compte. Qu'est-ce que nous dit Rav Nachman ? Rav Nachman nous dit « Chayav le'achazir ». Il dit, a priori, j'ai l'obligation de rendre. Pourquoi ? D'accord ? Il dit « Ma'itama, quelle est la raison ?» Parce que « Aoud nafal mine l'omiyash ». Parce que celui qui a perdu la pièce, il ne l'abandonne pas. Pourquoi ? Mais Maramar, parce qu'il se dit, Mirde, voyons, I ni Shacharina, Loavabadai, et la haï. Je marchais qu'avec une personne, je marchais pas avec 10 000 personnes, on marchait à deux. Donc, certainement, que même si moi je l'ai fait tomber, mon ami il a déjà pris. Nakit Nale, d'accord ? Va Aminale, donc je vais attraper cet ami-là qui est avec moi, je vais l'attraper, je vais lui dire, Antu Deshkalde, c'est toi qui l'as pris. Et s'il voudra pas me, et s'il me dira non, j'ai pas pris, écoute, j'ai pas vu dans ce cas-là, qu'est-ce que je vais faire? Il se dit, j'ai une procédure à faire. C'est quoi la procédure? La procédure que Rashi explique, c'est la procédure de jvoat eset. Jvoat eset, ça veut dire comme ça. Ça veut dire que si je soupçonne quelqu'un qui m'a volé quelque chose, mais j'ai pas de preuve. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là, d'après vous? Qu'est-ce qu'on fait dans le système juridique français?
Je vois la personne.
Ah, mais, je veux savoir, qu'est-ce qu'on fait dans le système juridique français?
Bah,
on enquête. Non, je pense que quelqu'un m'a volé, mais j'ai pas de preuve.
Rien.
Rien, y a pas de preuve. Qu'est-ce que je fais?
Cloum.
Rien. Ouais. Hein, comme on dit, bah, tant pis, t'as perdu. Dans la Torah, c'est pas comme ça. Dans la Torah, il y a le principe de jouat et set. Torah dit, ça peut pas se passer comme ça que celui qui veut, il vient, il te prend un objet et que comme t'as pas de preuve, eh ben, tu peux rien faire. Imaginez-vous, je rentre dans une librairie, j'achète un livre, j'ai pas eu le temps d'écrire mon nom, il y a quelqu'un qui me l'arrache. Pas de preuve, est-ce que j'ai une preuve que c'est mon livre? Je dis non, c'est pas à toi, c'est à moi. Pas de preuve. Qu'est-ce qu'on fait dans la Torah? On a le principe de jouat et set. Jouat et set, ça veut dire que je peux l'attaquer en justice. D'accord ? Certes, je ne pourrais pas lui récupérer l'objet, mais je pourrais le faire jurer. Je pourrais le faire jurer que ce qu'il dit est vrai.
Qu'est-ce que c'est
marqué ? D'accord ? Chouette
et sept. Il n'est pas là.
Il est dans les commentaires, tu vas voir après dans les notes. Je t'explique à l'oral. Enfin, certainement que vous allez le mettre dans les notes. C'est quoi chouette et sept ? C'est-à-dire, je le fais jurer, je lui dis que... Jure que tu dis la vérité. Et on dit qu'en général, on avait expliqué au début de la Gemara, Baba Metzia, que même si une personne est soupçonnée de voler, d'accord ? Mais de manière générale, les juifs ne sont pas soupçonnés de jurer à faux sur un Sefer Torah. Parce qu'attention, quand on jure à faux, c'est sur un Sefer Torah. Les gens, ils ont la recette du Sefer Torah. Ils veulent pas toucher. Par contre, il faut savoir que la Gemara nous dit qu'à une certaine époque, on a vu que les gens n'avaient même plus peur du Sefer Torah, donc on a arrêté de faire jurer, parce que ça ne servait à rien. Mais bon, de manière générale, dans le peuple juif, les gens ont peur du Sefer Torah. Donc c'est pour ça que c'est un moyen de dissuasion. Comme ça, on te dit, écoute, attention.
Donc, sur, dis la que... Torah, sur la Torah.
Sur la Torah. Non, mais sur la Torah, on prend
oui,
le Sefer Torah.
Non, d'accord, hein. Ça veut dire.
D'accord,
ça,
oui. C'est là que ça vient.
Je te jure sur la Torah,
ouais. Dans la vie de ma mère.
Ah, ouais.
Ou sur la vie de Tata Rachel, il dit, c'est ça?
Sur la vie de Tata.
Donc, il dit comme ça. Si, il nous dit comme ça, Rav Nachman. Si je vois deux personnes qui sont en train de marcher. D'accord? Et je vois une pièce qui tombe dans les deux. Je peux prendre la pièce. Non, pardon, je suis obligé de rendre la pièce. Pourquoi ? Parce que celui qui a fait tomber la pièce ne l'a pas abandonnée. Il s'est pas rendu compte qu'il a fait tomber. Mais il se dit, attends, je marchais avec quelqu'un. Donc il a dû la prendre, certainement, c'est pas possible, c'est pas normal. Et ça fait du bruit une pièce. Même si moi j'ai pas entendu, lui il a dû l'entendre. Donc il dit, je vais le dire, écoute-moi, rends-moi ma pièce. Il sait me dire, mais écoute, je t'ai pas pris ta pièce. Je vais amener au Bedin. D'accord ? Donc lui, dans sa tête, celui qui a perdu, il est sûr qu'il va récupérer sa pièce. Donc est-ce qu'il a abandonné sa pièce ? Il n'a pas abandonné sa pièce. Puisqu'il n'a pas abandonné sa pièce, dans ce cas-là, il n'a pas payé Yehush, donc moi je suis obligé de lui rendre. Mais, je finis la braïta. Bish le chat, s'ils étaient trois à marcher, on a beaucoup de détails aujourd'hui. Hein.
Non, parce que quand on perd...
Bish le chat, d'accord, s'ils étaient trois, il nous dit comme s'ils étaient trois à marcher ensemble.
C'est du vol.
D'accord. Oui, bien sûr que c'est du vol.
Tu marches avec quelqu'un, il ne te la rend pas. Alors tu
Seconde, non, la question, non. façon, c'est comme ça. Ouais. C'est que je suis obligé de rendre une perte seulement
quand il a l'intention
seulement
de la retrouver.
Si le propriétaire initial compte la retrouver.
Exactement.
Là, dans ce cas-là,
on parle. Fait tomber une pièce, t'as l'intention de la retrouver.
Sauf si tu vas faire qu'il le chercheur.
Ça veut dire que on se dit que quelques minutes plus tard, ou quelques heures plus tard, il va se rendre compte, il va dire ah j'ai perdu ma pièce. Il va dire mais attends, je marchais avec quelqu'un. J'ai fait la route là pendant une heure avec quelqu'un. Donc il va chercher dans son boulot, il va chercher à la maison, il n'y a pas. Il va dire j'ai dû la perdre en route. Je marchais avec quelqu'un, il a dû me la prendre lui. D'accord ? Je marchais avec quelqu'un, je marchais avec lui. Donc il arrête cette personne, il dit écoute, rends ma pièce. C'est pas.
Est-ce que j'ai
perdu
la pièce avec toi ? Non, c'est
vraiment moi. Et il se dit, si il me dira, j'ai pas perdu, je lui dirai, écoute-moi bien, je vais te faire jurer au Bedjin, comme ça il va avoir peur. Donc dans sa tête, il a pas abandonné l'objet. Par contre, il était trois, pour répondre à ta question tout à l'heure, Yaakov, qu'est-ce que j'ai dit, 603, Bishlocha, 603, et Nochaya, Achazi. Il n'a pas l'obligation de rendre l'objet. Pourquoi? Maïtama, quelle est la raison? Aoud et Nafalmine, celui que l'objet est tombé, celui qui a perdu la pièce, il ne s'est pas encore rendu compte, mais il va se rendre compte dans quelques minutes ou quelques heures qu'il a perdu la pièce. Vadaï Miyash, c'est sûr que dans les minutes qui vont suivre, il fera obligatoirement Yehush, il va abandonner. Pourquoi? Mais Marama, il va faire le calcul suivant. Mirde, voyons. Tréa vous Vadaï. D'accord? Ils étaient deux avec moi. Inakitna le Aïe. Si je vais attraper un des deux, d'accord, et je vais lui dire rends-moi ma pièce. Amar, il va dire le shekelte, je l'ai pas pris. Ve inakitna le'ay, d'accord. Et si je veux prendre l'autre, je vais lui dire rends-moi ma pièce. Il va me dire le shekelte, je l'ai pas pris. Or, c'est quoi le principe qu'on a ici? C'est que puisque tu n'as pas de raison de prouver que un des deux était voleur, est-ce que je peux les faire jurer au Beddin? Non. Dans quel cas je peux faire jurer quelqu'un en Beddin, je peux faire jurer je vois tes têtes, c'est uniquement dans le cas où j'ai de fortes chances à penser qu'il y a un des deux qui me l'a pris. Genre je sais que je pense que c'est lui qui me l'a pris. Mais là dans ce cas-là, ils sont trois. Puisqu'on est trois. Est-ce que je peux prouver que un plus que l'autre était voleur? Non. Donc est-ce que je peux les faire jurer? Non. Donc celui qui a perdu l'objet, d'accord, est-ce qu'il compte toujours le retrouver? Il se dit non. De toutes les façons, je peux rien faire, c'est cuit, c'est fini. Donc il a perdu l'objet. Puisqu'il a perdu l'objet, moi qui viens par derrière. Depuis, tu peux prendre l'objet.
Et pourquoi il ne peut pas faire jouer les deux?
Attention, bien entendu.
Il y aura toujours un doute.
Bien entendu, ce que dit Yaakov.
Il y aura toujours un doute, on ne sera jamais.
Parce que le propriétaire initial finira toujours par abandonner.
Mais chacun va jurer.
Non, il ne peut pas les faire jurer.
Pour faire craquer l'un
d'eux. Il ne peut pas les faire jurer.
Pourquoi?
Parce que chacun des deux qui va dire, pourquoi tu peux jurer à moi, fais jurer l'autre, on était deux à marcher.
Mais les deux vont jurer.
Non, on peut faire jurer les deux. Parce qu'on peut faire jurer une personne
quand on a un doute
qui tient debout.
On a un doute sur les deux.
Non, là j'ai pas de doute sur un des deux.
C'est l'un des deux.
Il faut que le doute il soit solide. C'est-à-dire je dis écoute, je marchais qu'avec toi, une pièce quand elle tombe ça fait du bruit, t'aurais dû l'entendre. C'est pas normal. Donc là j'ai une raison de penser que c'est lui. Mais là ils sont deux. Donc chacun des deux va dire c'est pas moi qui l'ai pris, c'est l'autre. Pourquoi tu dis que c'est moi?
Pourtant comme ils sont deux, il y a plus de présomption que la pièce a été retrouvée.
Voilà.
Quand même.
En plus.
Ouais.
D'accord.
Ouais.
C'est pour ça qu'on te dit que lui dans cette pièce, il te dit, il peut pas les faire jurer. Il peut pas les faire jurer. Parce que on peut faire jurer que si on a des fortes présomptions, donc dans ce cas-là.
J'ai une forte présomption sur l'un des deux.
Oui.
Maintenant pour éclaircir la chose, on va faire jurer les deux.
Non, je peux pas faire jurer les deux. On fait pas jurer comme ça. C'est assuré de faire jurer les
deux. Comme ça, ils sont deux, on fait jurer.
Non, ça marche pas comme ça. Dans le système juridique de la Torah, on ne peut les faire jurer. Par exemple, dans le cas dans lequel on pouvait les faire jurer. Non, regardez. Le cas dans lequel on aurait pu les faire jurer, c'est si on aurait pu trouver une raison pour dire que les deux ensemble ont volé.
Voilà, c'est un souci.
D'accord. Par exemple, vous êtes deux frères, vous étiez de connivence. Là, oui, on leur fera jurer les deux. Mais là, dans ce cas-là...
L'un des deux a pu voler, là.
Très bien. Mais là, dans le cas qu'on a ici, j'ai pas de raison de penser que les deux ont fait leur larcin ensemble. D'accord. J'ai pas de raison de penser...
Pas ensemble, je dis l'un des deux.
Faut pas oublier quelque chose. C'est qu'en plus, celui qui marchait avec les deux, celui qui a perdu l'objet, il est même pas sûr qu'il a fait tomber l'objet. Lui, il se dit peut-être qu'il y en a un qui me l'a pris de ma poche. Faut penser à ça aussi.
C'est l'un des deux.
D'accord. Comme c'est l'un des deux, on peut pas faire jurer. Impossible. Parce qu'on n'a pas de. Je peux faire jurer que si j'ai de fortes chances de penser que c'est une personne. Mais quand c'est deux personnes, je peux pas faire jurer tout un wagon de métro. On n'en finit plus après. Très bien. Dans ce cas-là, il a abandonné l'objet. Alors là, pourquoi on amène cette histoire-là? Pour nous montrer que c'est pour ça qu'on avait dit trois juifs. Et pas deux juifs. Pourquoi trois juifs et pas deux juifs? On a posé la question, tout à l'heure, Yaakov a posé la question, il a dit, mais pourquoi tu me dis 3, pourquoi tu me dis pas 2? Très simple. Parce que quand c'est deux personnes, quand c'est deux juifs, on considère que la personne n'abandonne pas son objet. Il dit, je vais l'attaquer en justice, je vais le faire jurer. Mais quand ils sont 3, il a abandonné. C'est pour ça que, pour revenir à notre cas d'avant, le locataire précédent, s'ils étaient trois, d'accord, trois locataires, celui qui a perdu l'objet l'a déjà abandonné parce qu'il va dire de toutes les façons je peux attaquer aucun des deux en justice puisque j'ai pas de preuve que c'est un plus que l'autre. Donc, c'est fini, c'est cuit. D'accord, voilà, c'est ça ce que dit Rav Nachman. Amar Rava.
C'est des juifs ou pas?
Pardon?
Les trois derniers locataires, c'est des juifs?
Oui, on a dit qu'on peut expliquer que ça peut être aussi des juifs. C'est ça, on a expliqué. Et là, on explique que Rav Nachman, il a dit comme ça, on peut dire que c'est aussi des juifs. On a dit, comment c'est des juifs? On se fait pas confiance. Et là, il nous dit Rav Nachman, il dit oui, quand ils sont trois, eh bien, on considère que lui, il se dit que certainement un des deux est voleur, mais je peux pas les attaquer, donc il a abandonné son objet. Attention, c'est pas fini. Amar Rava, Rava a dit. Aïda Amrat. Rava s'adresse à Rav Nachman. Il lui dit, ça ce que tu as dit Rav Nachman. D'accord? Que Bishlosha et Nochayav la Khazir, que lorsqu'ils sont trois, on n'a pas l'obligation de rendre. Lo Amaran est là. Zeleit Beshavé Prutal et Kolchad Vechad. Dans quel cas on a dit ça? Seulement dans le cas dans lequel, dans ce que la personne a perdu, il n'y avait pas assez, d'accord, pour que les deux qui ont volé se seraient partagés le butin. Aval, mais pour répondre à votre question, c'est Daniel. Idve Shavé Prouta l'école Khazéchan. S'il y avait assez pour que chacun des deux autres qui étaient avec lui peut le prendre, Khayav l'Achazir. D'accord? Il a l'obligation de rendre. Pourquoi? Maïtama, quelle est la raison? Imur Shuta Feninu, parce qu'il va dire peut-être que les deux étaient de connivence. D'accord? Ils étaient associés. Mais là, donc c'est pour ça, Velomi Yashu, ils n'ont pas abandonné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la chose suivante. Ça veut dire que si moi maintenant, je fais tomber mon objet, je fais tomber un portefeuille, ou bien, on va dire plus simple, je marche dans la rue, j'arrive chez moi à la maison, et je me rends compte que j'ai perdu le portefeuille. Maintenant, je marchais avec trois personnes. Je me dis, peut-être je l'ai fait tomber, peut-être ils me l'ont volé. Très bien. Alors, j'ai envie de les attaquer en justice. Je dis, attends, jurez-moi que c'est pas vous. Surtout que c'est des gens que j'ai appris certaines choses. Bon, jurez-moi que c'est pas vous. Chacun va dire, non, c'est pas moi. Pourquoi tu dis que c'est moi, peut-être c'est l'autre? Là, dans ce cas-là, écoutez bien, regardez bien ce qu'il dit Rava. Rava dit, si j'ai une raison de penser que les deux étaient de connivence, par exemple, d'accord, s'il y avait assez d'argent pour partager entre deux personnes, que là, dans ce cas-là, on peut dire qu'il y a un qui l'a pris et il a dit, le t'écoute, tu dis rien.
Tu sais, je te donne la moitié.
Voilà, je te donne la moitié. Ouais. D'accord, tu te tais, tu me laisses faire et je te donne la moitié. Là, dans ce cas-là, puisqu'on a une raison de penser que c'est possible que les deux, on l'a envolé ensemble, j'ai la possibilité de les faire jurer.
Alors que la pièce, on considère qu'on peut pas la couper.
Alors que la pièce, on peut la couper en deux.
Mais
on pourrait la changer, oui. Voilà. C'est pour ça que Rava, il dit attention, tu m'as dit tout à l'heure, un cela, c'est pas un bon exemple. Il faut dire que c'est une prouta. C'est une pièce, ça veut dire, c'est une pièce qui vaut une prouta. Que si tu la coupes en deux, il reste qu'un centime pour chacun. Un centime, on prend pas. D'accord? Mais si c'est une pièce qui valait, si c'est une pièce dans laquelle, c'est une pièce de monnaie qui valait très cher et qu'on pouvait la partager en deux personnes, là dans ce cas-là, il te dit qu'on peut partager une base, c'est possible que les deux ont volé. Et donc, même s'ils n'ont pas volé, parce que moi j'ai vu que c'est tombé, c'est ça le truc. Mais le propriétaire initial ne va pas abandonner. Il va dire, parce qu'il va dire, ouais, je vais les attaquer, ils vont voir. D'accord? Donc il n'a pas abandonné. Puisqu'il n'a pas abandonné, est-ce que je peux le prendre? Je ne peux pas le prendre. Ça c'est comment Rava explique par le rendre.
Donc faut le rendre.
Pardon?
Donc faut le rendre. Donc t'évites toute une histoire.
Alors,
là.
Ce qui est intéressant, c'est que Rava a dit qu'il faut qu'il y ait au moins la valeur de 3 proutas. Donc une prouta dans la Gemara, c'est la valeur minimale. Moins que ça, on ne fait pas attention. D'accord? Donc on va dire aujourd'hui c'est l'équivalent à peu près de 15 centimes d'euros.
Ouais.
D'accord?
Sixième de...
Les gens ils ramassent pas 5 centimes d'euros par terre. Ils ramassent pas. Par contre, dès que tu as 20 centimes, bon, ça peut. Il y a des gens qui peuvent ramasser. D'accord? Bon. Donc, Rava dit ici, ça c'est une première hypothèse, on a une deuxième hypothèse tout de suite après. Première hypothèse de Rava, qui dit que. Il faut dire qu'il y a ici 3 fois 20 centimes, enfin 3 fois 15 centimes. Que là, dans ce cas-là, on va se dire que peut-être que les 3, celui qui est le spectateur qui est derrière, qui a vu comment la pièce est tombée, va dire peut-être que la pièce appartenait aux 3. C'est une première hypothèse. Deuxième hypothèse, Ikade Amri, Amar Rava, Afalgav de Leitve Ela Shaveshte Proutot, d'accord? Même s'il y a seulement la valeur de 2 proutas, d'accord? De 2 proutas, pas 3. Khayav l'Arzir, j'ai l'obligation de rendre. Pourquoi? Maïtama, quelle est la raison? Imur, tout à fait nous, parce que je veux dire que les 3 étaient associés dans cette pièce-là. Khadminayu, Achul et Achale, Limnate et Gabé Khavre. Il y a un des 3 qui a pardonné ou qui a laissé sa part à son ami. Donc dans ce cas-là, d'accord? Alors ça c'est intéressant comment Rachid explique ce cas-là. Il dit qu'on va dire qu'en vérité, c'est très possible, d'accord? Il est très possible que
les trois étaient associés sur cette pièce. Alors moi je dis une pièce, parce que j'ai une pièce de monnaie, mais ça peut être une pièce de...
Une pièce de 100 euros,
d'accord. Donc il va se dire, peut-être que... Moi je suis spectateur par derrière, je me dis peut-être que les trois étaient associés sur ce billet de 100 euros. Et dans ce cas-là, puisqu'ils sont associés, il ne va pas soupçonner l'autre. Il va se dire, certainement, il faut un coup ou ils vont me le rendre. Donc il n'a pas abandonné son objet. Donc puisqu'il n'a pas abandonné son objet, d'accord. Puisqu'il n'a pas abandonné son objet, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on considère? On considère qu'il compte le retrouver, donc moi que je le trouve derrière, je suis obligé de le rendre. Mais si c'est un objet qui, si c'est un objet qui vaut que une prouta, que là dans ce cas-là, c'est obligé qu'il appartienne à une seule personne. On ne peut pas dire qu'il appartient à trois personnes, puisqu'il n'y a pas de quoi appartenir à trois personnes. Là, dans ce cas-là, moi que je trouve derrière, je peux le prendre. Vous avez compris qu'on a réduit énormément les
possibilités.
On a réduit énormément les possibilités. Quand déjà on a dit que c'est un objet qui vaut uniquement une prouta. C'est-à-dire c'est un objet qui vaut 15 centimes d'euros. On a réduit, qu'est-ce qu'on a réduit également? Quand on a dit également que dans le cas des locataires, on parlait que les trois locataires précédents étaient juifs. Il fallait qu'il y en ait trois. Quand il fallait qu'il y en ait trois. Et même ça, c'est pas sûr. On a dit qu'il y en a qui pensent qu'il ne faut pas qu'ils soient juifs, il faut qu'ils soient non-juifs. Donc on a réduit énormément les possibilités, d'accord,
de ne pas rendre.
C'est-à-dire que normalement, ça m'est déjà arrivé, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, de trouver des choses dans des voitures de location. Bien qu'elles sont bien nettoyées, mais ça arrive des fois qu'on trouve dans la boîte à gants, c'est surtout en été dans les cas il y a une forte affluence, ils nettoient rapidement les voitures, des fois on trouve des choses. C'est pas arrivé des fois qu'on trouve un CD. Ah, ça vous est déjà arrivé ça?
Non.
Ça m'est arrivé plein de fois.
J'ai trouvé une banane dans le
CD, toi.
Je rentre dans la voiture, une voiture de location, d'accord. Je voulais mettre le CD, je vois ça rentre pas, j'ai dit, c'est bizarre, pourquoi ça rentre pas. J'appuie le bouton, il y a un CD qui sort. Bah, un CD de musique non juive. Qu'est-ce que je fais avec le CD? D'après vous, le propriétaire initial, il l'a abandonné ou pas?
Il a oublié.
Alors c'était un CD gravé. C'était un CD gravé. D'accord. C'est pas un CD original.
C'est presque une prouta.
D'accord. Bon, on considère qu'un CD... Moi je pense, en tout cas si ça me serait arrivé à moi, un CD gravé quand même dans une voiture, ouais. Je dis bon c'est pas grave, je regrave. Ouais. Donc j'ai pris le CD, je l'ai jeté. D'accord. Mais pour vous dire, si ça serait un CD... Bon quoique non, en général les gens, si c'est un CD, ils abandonnent. On va dire qu'ils ont déjà copié la musique. Mais c'est vrai que ce serait un... Une fois que je trouve un portable par exemple, je l'ai ramené à l'accueil. Bon, je sais pas ce qu'ils ont fait avec.
Ouais. Vous avez fait quelque chose?
Bah oui. Un portable, j'aurais pu le garder.
Ouais. Quoi, c'est pas le chargeur peut-être.
Quoi? Voilà. Bon, on va faire un petit peu de spot. Et après, on va faire Hadara.
On fait un petit café en attendant, non? Tu veux pas? Alors, tu veux qu'on attende la Hadara?
Oui, on fera pendant la Hadara. Alors, allez. On va prendre de Tosfot, d'accord? Betor Habayit. On comprend la page d'avant. En Tosfot, il n'y a pas la traduction. Faire un petit peu de Tosfot. Betor Habayit. Donc au vers le milieu de la page.
Et...
Non, c'est la page 26A. Voilà. Betor Habayit. Vous lisez le Rashi?
Non, je vais me débrouiller.
Betor Habayit à Reilushelo. Donc on va dire un petit peu de Tosfot, après on fera la révision. Betor Habayit à Reilushelo. Qu'est-ce qu'on a dit? On avait dit dans la Mishnah que si c'était une maison qui était louée, donc c'était une maison de location saisonnière, d'accord. Même si c'est, ou bien même, enfin pas forcément saisonnière, hein, même si c'est une maison qui est louée, mais qui a été louée à plusieurs locataires, même si je trouvais dans la maison, à Reilushelo, l'objet est à moi, je veux me l'approprier. Puis on considère que le propriétaire d'avant l'a abandonné. Il dit Tosfot. Écoutez bien ce qu'il dit, il va réduire encore plus les chances de garder l'objet. Maïre, on parle ici, Shematza Beze Aïmyat Shinire Shehu Aveda. On parle d'un cas que j'ai trouvé un objet, mais que ça se voit que l'objet a été perdu. Suivez ? Ça se voit que l'objet a été perdu. Comment ? On va essayer de comprendre ensemble qu'est-ce qu'il veut dire ce soir. Je crois que ça se voit que l'objet a été perdu. Qu'est-ce que vous dites ? Je rentre dans la maison de location, je trouve un objet, je trouve un livre par exemple, bien rangé dans la bibliothèque. Est-ce que le livre est perdu d'après vous ? Dans ce cas-là.
Il est oublié.
Il est oublié. Il n'a pas été perdu. D'accord. Par contre, je rentre dans la maison et je trouve un objet par terre. Je trouve un appareil photo par terre. Il n'y a rien à faire par terre. C'est clair que dans la cour, ils ont fait tomber l'objet. D'accord. Là, c'est clair qu'il a été perdu. Tout ça réduit encore les chances. Dis-lui de quel cas on parle la Mishnah. La Mishnah qui te dit que si tu es trouvé dans la maison, d'accord, tu peux le prendre. Elle parle uniquement d'un cas dans lequel l'objet est posé dans la maison d'une manière à ce que ça se voit qu'il était perdu.
Ou qu'il a été abandonné.
Ouais.
Par exemple, un objet qui se compose de deux parties.
Oui.
S'il reste qu'une des deux parties.
Et du style un appareil photo, je trouve un appareil photo dans le balcon. Ouais. Dans le balcon, je prends un appareil photo. Il n'y a rien à faire dans le balcon.
Non, on trouve un portable, mais il y a la moitié du portable.
Ben, dans ce cas, je le jette.
Je le jette. Donc il a été abandonné.
Non, mais s'il est utilisable, il ne peut pas être abandonné.
S'il est utilisable, oui. Alors ça, ce qu'il te souhaite. C'est ça, tu dis, on parle d'un cas, d'accord ? Oubliez tout ce qu'on a dit avant, les locataires, deuxième locataire, troisième locataire. Tu dis, le seul cas qu'on est en train de parler ici, d'accord ? C'est soit tu dis, on parle d'un cas que l'objet a été trouvé d'une manière à ce que ça se voit que l'objet a été perdu. Par exemple, je dis, un appareil photo dans un balcon, il n'a rien à faire là-bas. Mais si l'objet est posé bien comme il faut dans la bibliothèque, et là, dans ce cas-là, c'est pas perdu. Dans ce cas-là, dans tous les cas, je suis obligé de chercher le propriétaire initial. Et si je ne veux pas chercher le propriétaire initial, je dois au moins le rendre au propriétaire de la maison. Qui lui le rendra, si Dieu veut, au propriétaire qui reviendra. Donc on a encore réduit les chances. D'accord ? C'est très rare de trouver un objet. Très rare de trouver un objet. Bon, donc je vous reprends le cas de la location de voiture. D'accord ? Le CD. Qui était dans le...
Donc s'il est perdu, il a...
Attendez, je reprends mon cas de location de voiture. D'après vous, on va analyser ensemble le cas. Le CD qui était dans l'autoradio.
Un oubli.
D'accord ? C'est un oubli, c'est clair, c'est un oubli. Ouais. Il n'a pas été posé, ouais. Il n'a pas été rangé là-bas. C'est un oubli, c'est clair. C'est... Donc dans ce cas-là, c'est clair que j'aurais pu le prendre.
Vous aurez pu ?
Le prends ?
Je le prends.
On a dit un oubli pour prendre...
Ah ! On a dit que dans un oubli, il faut le rendre au dernier locataire, mais seulement, d'accord ? Si je considère que le dernier locataire l'a pas abandonné. Dans mon cas, je suis sûr qu'il a abandonné. D'accord ? Ça veut dire que ce que Soti dit, c'est que même si je sais que les trois derniers locataires, c'était
un oubli, mais il a pas cherché à le retrouver. Ça veut dire qu'il a abandonné.
Voilà. Ça veut dire que même si je sais que les trois derniers locataires, c'était des non-juifs, que j'ai pas l'obligation de leur rendre.
C'est dégravé.
Parce que ça n'a pas une grande valeur.
Il n'a pas une valeur, non.
Attendez. Ouais. Même si je sais que les trois derniers locataires étaient des non-juifs. D'accord ? Trois derniers locataires étaient des non-juifs. Mais je sais qu'avant, il y avait des juifs. Je suis obligé d'essayer de remonter la chaîne pour voir s'il y avait des juifs et leur rendre. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas été simplement posé par terre, il a été posé. Et alors, peut-être que le dernier locataire, celui qui est venu, il a dit, bon, ça se voit qu'il a été posé, je touche pas. C'est pas à moi. S'il voit jeté par terre, il va dire, bon, il est jeté par terre, c'est pas normal, je le prends. Mais quand il voit bien posé, il dit, il a été posé, je touche pas. Donc, rappelez-vous, n'oubliez pas ce que veut dire Rava. Qu'est-ce qu'il a dit Rava ? Rava, il a dit, pourquoi je me dis que certainement ça provient du dernier locataire ? C'est la force de Sfot. Pourquoi je me dis que certainement ça provient du dernier locataire ? Parce que si ça provenait des locataires précédents, certainement que le dernier locataire l'aurait déjà trouvé. Mais l'objet est entreposé, il est posé, il n'est pas perdu, même si le dernier locataire l'a déjà remarqué, c'est pas forcément qu'il l'a pris, il l'a laissé, il a dit, écoute, c'est pas moi.
Il l'a respecté.
D'accord ? Il l'a respecté. C'est pour ça que je suis obligé d'aller chercher le dernier locataire, donc le dernier et celui d'avant, jusqu'à que je trouve qui c'est qui l'a perdu. Ou, d'accord, si je ne vais pas me prendre la tête, je le mets en dépôt chez le propriétaire de l'appartement, je dis voilà, ou bien chez l'agence je vous le mets en dépôt, et dès que la personne reviendra, vous lui donnerez. Ça peut être une solution aussi. D'accord ? Vous voyez comment tout ça t'a encore réduit le cas. Ça te dit que le fait qu'on se base sur le fait de dire que certainement que le propriétaire d'avant, le locataire d'avant l'a pris, ça on peut le dire que dans un cas où le propriétaire se permet de le prendre. Et dans un cas où l'objet est bien posé, que le propriétaire ne se serait pas permis de le prendre, je n'ai pas le droit de le prendre.
Il faut faire une différence entre perdu et oublié.
Voilà.
Oublié, il faut remonter jusqu'à trouver le propriétaire de l'objet.
Ouais.
Et perdu.
Et perdu, on garde, voilà. Parce qu'on considère que...
Ah, s'il a de la valeur, il faut considérer que c'est le dernier locataire. Qui aurait dû faire enquête.
Alors on va sauter un tosfot.
Mais qu'il n'a pas.
D'accord. On va faire le tosfot d'après l'Olam Maaser.
Qu'il n'a pas abandonné.
Abandonné, ouais.
Qu'il n'a pas payé.
On va sauter un tosfot. D'accord.
J'ai pas tout compris.
Pardon ?
J'ai pas tout compris. La dernière fois, ça m'a perturbé.
Lequel ?
Ça veut dire, il y a un objet qu'on a laissé qui a été trouvé dans l'appartement,
oui.
Oublié. Bon, c'est quelque chose, c'est un objet qui a été soit oublié, soit abandonné.
Non,
soit perdu.
Voilà, ça dépend. Ouais. La manière comment il est posé va nous montrer.
La main sur l'arbre des retrouvailles. Oublié ou perdu.
Alors, s'il a été oublié, c'est-à-dire qu'il a été posé, il n'a pas été simplement jeté.
Un lit dans une bibliothèque.
Voilà, un lit dans une bibliothèque, d'accord. là dans ce coup, bien, je sais pas, un, ou bien un appareil photo dans un, etc. D'accord, ouais. Ou un CD, bon, si le CD vaut cher, par exemple, un CD collector, je sais pas, ouais. Collection. On considère, qu'est-ce qu'on dit dans ce cas-là? On dit dans ce cas-là que dans tous les cas, il faut ou chercher le propriétaire, ou chercher celui qui l'a perdu, ou bien le donner au propriétaire de l'appartement, d'accord, le propriétaire de l'appartement, pour qu'il puisse, non, ou faire l'enquête, ou le garder le temps que, voilà. Après, au bout d'un an, par exemple, tant que personne ne sera revenu, il le gardera. D'accord? Lui le gardera. Très bien. Maintenant.
Maintenant, l'objet a été perdu.
Perdu. C'est-à-dire, je vois, par exemple, je rentre dans la maison, je vois un appareil photo posé par terre. Il n'a rien à faire ici. D'accord? Là, dans ce cas-là, puisqu'il est perdu, ça dépend. Si les non, ça dépend. Ça dépend du cas. Si les derniers locataires étaient des non-juifs, si les derniers locataires étaient des non-juifs, là je le prends. Ouais. Pourquoi? Puisque je me dis que certainement, que si l'objet provient de deux locataires en arrière, même si deux locataires en arrière étaient juifs, d'accord, certainement que le précédent locataire l'aurait pris déjà. Très bien. Donc plus je le trouve maintenant, je le prends. Mais si les derniers, si maintenant les trois derniers locataires étaient juifs, d'accord, là dans ce cas-là, dans tous les cas, il faut le rendre. Ça dépend. En vérité, ça dépend. On a eu une marque locale. On a dit Rava qui a dit que s'il était trois locataires, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il a dit Rava? Rappelez-vous ce qu'on a dit. Je te répète. Je rentre dans un appartement. D'accord? Je trouve un appareil photo par terre. D'accord? Je fais l'enquête qui étaient les derniers locataires. Si les trois derniers locataires étaient des goyim, est-ce que je peux prendre l'objet?
Oui.
Oui. Si maintenant les trois derniers locataires étaient juifs, d'accord? Marque locale. Il y a un avis qui dit qu'on considère que les trois locataires ils se font confiance.
Donc,
puisqu'ils se font confiance, certainement que le propriétaire Nissan, il s'est déjà dit, ben, il a perdu mon objet, donc il l'a abandonné. Un autre avis qui dit non. D'accord, un autre avis qui dit non. Trois locataires, ils ne se font pas confiance, chacun dit, peut-être qu'il me l'a volé. Donc le propriétaire Nissan n'a pas abandonné l'objet. Puisqu'il n'a pas abandonné l'objet, d'accord, donc j'ai l'obligation d'aller le chercher et de le rendre. Si maintenant, ils n'étaient pas trois, ils n'étaient que deux locataires. Qu'est-ce qu'on a dit dans ce cas-là? Dans tous les cas, je suis obligé de le rendre. Parce que chacun se dit, peut-être que l'autre est en train de me faire un coup.
Je vais le faire jurer.
Je vais le faire jurer. Donc,
pour éviter ça, hop, on le rend.
C'est pas pour éviter ça. Donc on considère que celui qui l'a perdu n'a pas abandonné son objet, donc j'ai l'obligation de le rendre. Ça, c'est ce qu'a dit Tosfot.
Mais Tosfot, ici, il rajoute quoi? Il rajoute sur la nature de retrouvailles de l'objet.
Ah oui,
c'est ça le truc.
Ça change tout. Ça change tout. Vous comprenez que là, c'est...
Avant, il y avait donc les personnes qui étaient les acteurs.
Et Tosfot rajoute qu'il faut se baser sur la nature
des retrouvailles.
Comment l'objet est posé? Est-ce que c'était un oubli ou est-ce que c'est une perte? Ça change tout. Ça change tout. Bon.
On a dit que deux, on ne les faisait pas jurer.
Si, non. S'ils étaient trois en tout, que là, dans ce cas-là, les deux suspects, comme ils sont deux, on ne peut pas les faire jurer. On peut les faire jurer que si la perte pouvait être partagée par deux. Que si la perte pouvait être partagée par les deux.
Mais c'était trois, il y a celui qui a perdu l'objet et les deux autres.
Voilà. Que si la perte pouvait être partagée par les deux.
D'accord.
Mais si la perte vaut qu'une prouta, là dans ce cas-là, on considère que certainement qu'il y a un voleur et que le propriétaire initial a déjà abandonné.
Je sais pas si pour prouta tu peux pas.
Si pour.
Tu peux pas porter plainte pour prouta.
Ah, bah à l'époque de la Gmara, en tout cas, on pouvait attaquer quelqu'un en justice même pour 15 centimes d'euros.
Ça, c'est le problème des.
C'est quoi le minimum pour lequel on peut attaquer quelqu'un en justice en France?
Bah, 1 euro symbolique.
1 euro symbolique?
Ah, oui.
On peut attaquer quelqu'un pour 1 euro?
Oui, on peut pour préjudice pour 1 euro symbolique. Ça veut dire juste qu'il veut... Tu sais, quand on parlait, je sais pas quelle tribu, là, qui volait...
Bah, à l'époque, c'était un franc, symbolique.
Chacun un grain.
Ouais.
C'est minimum. Chacun volait un grain de riz, grain de blé.
Oui.
Ils étaient, je sais pas combien, 100 ou 200.
Ouais.
Je crois qu'ils volaient, chacun volait un grain de riz. Et à la fin, il restait plus rien. Donc,
Bien sûr. Ok, on a un deuxième tesoro.
Que Prouta, c'est comme si tu es marié avec Prouta. Tu achètes ta femme avec Prouta.
Prouta, oui.
Vous savez Prouta. C'est drôle que ça ferait presque Prout. C'est-à-dire qu'un vent, quoi. C'est rien.
Prouta, oui.
Ouais, c'est ça, c'est marrant.
Je sais pas comment ça.
Prout. T'as rien, un vent. Un huitième de Little Kid.
Quand ils sont deux et ça l'objet a une valeur.
Enfin, encore, tout ça pour faire hasard.
Là, on peut les attaquer.
Quand ils sont?
Ils sont deux et l'objet a une valeur.
S'ils sont deux, oui.
Là, on peut
là dans ce cas-là, un aurait pu attaquer l'autre.
On peut les faire jurer.
Donc, non. Là, dans ce cas-là, s'ils sont que deux. Donc là, dans ce cas-là, celui qui a perdu se dit, certainement, c'est l'autre qui l'a pris, donc je vais le faire jurer. Donc il n'a pas abandonné son objet.
Ah,
c'est ce que je continue.
Tu m'as expliqué. C'est-à-dire quand ils sont trois.
Trois.
Avec le propriétaire de l'objet qui a été perdu.
Mais combien il vaut l'objet?
Il a une valeur.
Combien il vaut l'objet?
Il a une valeur.
De combien?
Plus d'une prouta.
Est-ce qu'il vaut deux proutas?
manière de prouta.
Eh ben dans ce cas-là, on considère que le propriétaire n'a pas abandonné, donc il faut lui rendre.
Il peut les faire jurer les deux.
Oui. On peut lui faire jurer les deux. Enfin, un deuxième tosfot, après on va s'arrêter, on fera Zara. Donc on souhaite un tosfot, on fait le Leolam Maaser. D'accord ? Leolam Maaser. Donc je vous rappelle le contexte. D'accord ? Le contexte qu'on avait dit dans la Gemara, de quoi on parlait. On avait dit que si on il faut savoir que pendant la première année, quelle année on avait dit ? On avait dit pendant la première année, la deuxième année, la quatrième année et la sixième année, d'accord ? Du cycle de la Shemitah, on avait, mis à part le Maaser qu'on devait prélever, le Maaser normal, on avait l'obligation de prélever le Maaser Sheni. Ça veut dire on prélevait d'abord 10% pour le Kohen et le Lévi, et ensuite, des 90% qui restaient, on prélevait encore 10%. C'est-à-dire qu'en tout, on prélevait 19%. C'est bien d'accord ? Très bien. Donc les 9%, enfin les 10% des 90, ça veut dire donc les 9% qu'on prenait, qu'est-ce qu'on faisait avec ces 9% ? Ces 9%, on pouvait les consommer soi-même, on n'avait pas besoin de les donner à qui que ce soit, mais on devait les consommer à Jérusalem et en état de pureté. C'était les deux conditions. On avait dit que, puisqu'il y avait ces deux conditions, donc les gens, quand ils venaient à Jérusalem pour la fête, ils amenaient avec eux beaucoup de liquidités, puisque c'était les recettes de l'année. Les recettes de l'année, bon, c'est beaucoup, 9% c'est pas rien. 9% c'est beaucoup. Donc, ils consommaient ce qu'ils pouvaient, ils faisaient aussi des sacrifices avec cet argent-là, puisque c'est pur, et c'est à Jérusalem, il n'y a pas de problème. Mais il restait toujours beaucoup d'argent, pas au prochain. D'accord ? Donc qu'est-ce qu'ils faisaient avec cet argent ? Ils le donnaient aux commerçants, ils le donnaient, aux habitants de Jérusalem, peut-être les gens chez qui ils étaient invités, ils disaient voilà, je vous donne de l'argent, et vous, avec ça, vous pouvez garder cet argent, seulement la seule condition, c'est que c'est l'argent de la Sirchénie, il faut le consommer à Jérusalem, donc c'est déjà fait, sans Jérusalem, et il faut le consommer en état de pureté. Très bien. Et de là, on a dit que... Pardon ?
Les gens devaient coûter cher à Jérusalem.
Oui, les gens étaient intéressés, mais ils disaient venez, je vous prends gratuit. Donc du coup, on a dit que...
Il veut dire le prix de l'immobilier, il veut dire.
Du coup, on a dit que la majorité de la viande qui était achetée à Jérusalem, d'accord, était de la viande qui était achetée avec l'argent de Maaser Sheni. Très bien. On a posé la question suivante, on a dit, si je trouve de l'argent devant les commerçants d'animaux, qu'est-ce qu'on a dit ? On a dit, on se base sur la probabilité que certainement cet argent est tombé, d'accord, certainement cet argent est tombé, donc certainement cet argent provient de l'argent de Maaser Sheni. Donc puisqu'il provient de l'argent de Maaser Sheni, moi qui trouve cet argent-là, je peux le garder, mais cet argent-là, je vais considérer que c'était de l'argent de Maaser Sheni, ça veut dire que je ne pourrais consommer cet argent, enfin je pourrais utiliser cet argent qu'à Jérusalem, et qu'en état de pureté.
Pourquoi pas Maaser Rishon ?
Non, parce que Maaser Rishon, on n'achète pas avec des animaux.
Hein ?
Maaser Rishon, c'est pour le Kohen.
Tu le donnes.
Là, on dit que dans la majorité de l'année, les gens, c'est comme les tickets, les tickets restaurants, d'accord ? La majorité de l'année, les gens achetaient leur viande avec l'argent de Maaser Sheni. Il y avait tellement d'argent au Hachem que les habitants... C'est pas vrai, Jérusalem, c'est petit, c'est une petite ville, Jérusalem. C'est pas le grand Jérusalem aujourd'hui.
Mais pour les fêtes, il aurait pu perdre de l'argent qui devait revenir au Kohen.
Non, mais les probabilités. La majorité de l'argent qui est perdu devant le commerce d'animaux est de l'argent qui est de Maaser Sheni. Donc, moi qui trouve cet argent-là, je suis obligé d'appliquer la règle comme si c'était un Maaser Sheni. Donc, je le garde pour moi, mais je ne le consommerai qu'à Jérusalem et qu'en état de pureté. C'est vrai de poser la question suivante. Regardez bien la question qu'il pose tout de suite. Dis, en litlot, de mina mochin nafou. Il dit, mais pourquoi tu dis que l'argent est Maaser Sheni ? Parce que toi, tu pars d'une base que l'argent est tombé des acheteurs. Donc, les acheteurs viennent avec des liquidités, ils font tomber de l'argent, ils ne se sont pas rendus compte. Donc, cet argent-là a gardé toujours le statut de Maaser Sheni. Mais peut-être que cet argent est tombé des vendeurs. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Moi, j'ai de l'argent à Maaser Sheni. D'accord ? J'ai de l'argent à Maaser Sheni. Je vais pour acheter... Je vais chez le vendeur d'animaux pour acheter un animal. J'achète l'animal. D'accord ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Le vendeur, il va prendre de l'argent. Est-ce que l'argent que le vendeur a pris va rester Maaser Sheni ? Non. C'est l'animal que j'ai pris, c'est lui qui va prendre le statut de... Maaser Sheni. C'est lui, c'est cet animal-là que je devrais manger que à Jérusalem et qu'en état de pureté. L'argent est devenu un argent, a été converti, l'argent est devenu un argent chouline, l'argent normal, standard. Pourquoi tu dis que l'argent est tombé des acheteurs ? Peut-être que l'argent est tombé du vendeur. Et le vendeur est toujours là. Chameau qui passait par là, bon ça c'est déjà beaucoup plus... Là les probabilités sont déjà... Bon, on va dire que ça s'est passé sur place. Mais de la même manière que c'est tombé de l'acheteur, ça aurait pu tomber du vendeur. Oh, et l'argent que le vendeur détient dans sa poche,
ce n'est plus
du Maaser. Ah, pourquoi tu dis tout de suite c'est de l'argent de Maaser Sheni ?
Parce qu'en fait, il a parlé à la majorité.
Ah, on va essayer tout de suite. Non, c'est pas simple. Parce que les vendeurs sont toujours là, alors que les acheteurs, ils passent. C'est pas simple.
Oui, mais les acheteurs, c'est comme le problème du balayage.
Alors attends, on va voir ce qu'il
y a. Ils amènent l'argent à la banque, ou ils mettent de côté.
Eh, Luc-Lotte, non. Pourquoi tu dis pas que c'est le vendeur qui a fait tout?
Il y a autant d'argent.
Il y a autant d'argent.
À côté, il est dans une main, et après,
voilà.
Il est dans l'autre.
Voilà, la question. C'est le même argent.
L'argent, il est le même.
Oui, mais dans son travail, le vendeur, lui...
Ils arrivent, ils ont tellement d'argent pour dépenser qu'ils font tomber. C'est ça que c'est vraiment...
Alors regardez ce qu'il te souhaite.
Et les commerçants, j'en ai
fait... Mais Luc-Lotte, de Minamochim Naflou. Tu te souhaites, il dit... On ne peut pas dire que cet argent-là, de Minamor, Innaf, ou cet argent-là est tombé des vendeurs. La question que je viens de poser, pourquoi? Donc, et alors, si c'est tombé du vendeur? Ou Gvarmot, Khulin N, et que si c'est tombé du vendeur, c'est de l'argent qui est déjà Khulin, c'est de l'argent qui n'est plus Kadosh, puisque ça a déjà été chez Mitralelou à la BMA, puisque l'argent a déjà été échangé, la Kdusha de l'argent a déjà été transférée, d'accord, sur la BMA, sur l'animal. Pourquoi? De Azli, Nanbatarlo, Krim, De Avurova. Parce qu'on va, batal le crime, après les acheteurs, dit à vous, Rova, que les acheteurs sont la majorité. Pourquoi les acheteurs sont la majorité? Écoutez bien, s'il te soit. Des morer echad, morer le kamavne adam. Parce qu'un vendeur vend à plusieurs personnes. Un vendeur vend à plusieurs personnes. Ça veut dire comme ça. Si le vendeur a vendu un seul animal, là, effectivement, tu as raison, c'est 50-50. C'est où c'est tombé de la poche du vendeur? Ou c'est tombé de la poche de l'acheteur. Donc là, dans ce cas-là, je dis, je considère que l'argent n'est pas ma terre. Mais puisqu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, donc il y a plus de probabilité que l'argent est tombé d'un acheteur que d'un vendeur. Il y a eu plus de passants acheteurs que de vendeurs. Donc c'est pour ça que tu te dis, on considère que dans les probabilités, on considère que certainement l'argent est tombé de la poche de l'acheteur. Ça, c'est la première réponse. Deuxième réponse de Spot, VEA, deuxième réponse.
Et il pose la question et il fait la réponse.
Bien sûr, le but de Spot, c'est d'arriver à la réponse. De nous montrer qu'il y a une question. Veod encore. Des mukminan leu achazakat ave maaser. D'accord? Tout ça nous dit qu'à part ça, une deuxième réponse, il nous dit qu'il y a le principe de la présomption. Ça veut dire quoi? Quand on a une présomption sur quelque chose, par exemple, moi j'ai une présomption que je suis quelqu'un de cachère. D'accord? Je suis quelqu'un de cachère, de bonne famille. Maintenant tu vas me dire, oui, mais peut-être que dans ta famille, 10 générations en arrière, peut-être il y a eu des choses qui se sont passées.
C'est sûr.
Peut-être.
Tous.
C'est possible.
Ah oui.
C'est même probable. Je sais pas ce qui s'est passé. Pourtant, je suis considéré comme un juif cachère. On me mariera comme un juif cachère, pas de problème. Pourquoi? Parce qu'on a le principe de la chazaka, de la présomption. Il dit que quand il y a une présomption de quelque chose, si tu veux en faire sauter la présomption, il faut prouver le contraire. Ça, deuxième réponse, c'est ça. Ça se dit pourquoi on considère que cet argent est maaser? Parce que même si on va dire qu'il y a eu un seul acheteur qui est venu dans la journée, et qu'il y a 50-50. D'accord? C'est peut-être tombé de la poche de l'acheteur, peut-être tombé de la poche du vendeur. 50-50. Puisque on a une présomption que la majorité de la viande qui est achetée à Jérusalem est achetée avec l'argent de Maaser Sheni, donc on a une présomption que cet argent est de l'argent de Maaser Sheni. Si tu veux enlever cette présomption, il faut le prouver. Est-ce que tu as une preuve ici pour enlever cette présomption? Non.
Là, c'est la preuve que l'argent, c'est de l'argent de Maaser Sheni.
Oui.
C'est pas que c'est tombé de la poche du vendeur.
Mais ça veut dire comme ça. On a une présomption que la majorité de l'argent, qui est dépensé à Jérusalem, d'accord, pour acheter les animaux, et l'argent de Maaser Sheni.
C'est pour leur expliquer la première raison.
Tu as raison. Donc moi, j'ai un doute ici. Peut-être l'argent est tombé de la poche du vendeur.
C'est notre problème.
Peut-être l'argent est tombé de la poche de l'acheteur. D'accord? Très bien. Puisqu'on a une présomption que de manière générale, l'argent qui est utilisé est de l'argent de Maaser Sheni, pour faire sauter une présomption, il faut une preuve.
Ça, c'est pour la première partie.
Oui.
D'accord, mais pour la partie, est-ce que l'argent, c'est tombé de la poche du vendeur,
oui,
ou de l'acheteur, là, on n'a rien.
Très bien. Mais si tu veux dire que l'argent, ça veut dire comme ça. Cet argent-là, de toutes les façons, il était un jour maaser.
Oui.
C'est sûr qu'il était maaser.
D'accord.
Seulement, toi, tu me dis, peut-être que l'argent n'est pas tombé de la poche de l'acheteur, mais il est tombé une fois que c'était déjà passé dans la main du vendeur.
Oui.
D'accord. Donc, l'argent a quitté son statut de maaser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux enlever une présomption. Il y a une présomption que l'acheteur, il vient avec le maaser. Je dis oui, mais c'est possible que l'argent a déjà changé de main. Et donc, quand il a changé de main, il est devenu khulin.
Oui.
Qu'est-ce qu'il dit ce soit? Il dit que pour me faire sauter la présomption que la majorité de l'argent qui est utilisé est maaser, il faut une preuve. Tant que tu n'as pas la preuve, tu gardes la présomption initiale.
Alors,
ça veut dire comme ça, c'est-à-dire que pour reprendre l'exemple tout à l'heure, un juif qui se présente, moi je me présente, je me dis je suis juif, et mes parents étaient cachères, et mes grands-parents étaient cachères, même s'il est fort possible, c'est possible que des générations en arrière, il y a eu un problème. C'est à toi de me prouver qu'il y a un problème dans ma famille. C'est pas à moi de te prouver que ma famille est cachère. Donc la même manière pour l'argent. À toi de me prouver que nous on sait que la majorité de l'argent qui tourne à Jérusalem pour acheter les animaux est de l'argent qui est Maaser Sheni. Toi tu veux me dire maintenant que cet argent-là n'est pas l'argent de Maaser Sheni. Tu veux me dire que cet argent-là a déjà été converti, a déjà été transféré. À toi de me prouver que l'argent a été transféré. Tant que tu ne me prouves pas, on considère que l'argent reste à son état initial. Donc puisque les juifs, quand on était à Matan Torah, on était tous cachers. D'accord ? Donc on considère que maintenant, le juif qui se présente, on le considère cachère. À toi de me prouver qu'il n'est pas cachère. C'est ça la chazaka. La chazaka, ça veut dire qu'on le laisse à l'état initial. Voilà, on vient de sortir de Shavuot. On a reçu la Torah, on était tous cachères. D'accord ? Tu veux me dire maintenant que moi je suis pas cachère ? À toi de me prouver. T'as pas de preuve ? T'as pas de preuve, je garde l'état initial.
Oui, mais étant donné que le flux d'argent est exactement le même entre l'acheteur et le vendeur,
oui.
il y a forcément à ce moment-là plus d'argent rouline que d'argent
cachère. Non, pas du tout.
Si.
Non, si, dans ce cas-là, ça c'est la première réponse de Sfot. Sfot, tu dis que s'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, c'est-à-dire s'il y a eu plusieurs clients qui sont venus la journée, là c'est sûr qu'on se base sur la majorité des clients. Parce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs.
Donc il y a plus de probabilité pour faire tomber l'argent.
Voilà, donc là il y a plus de probabilité que ça tombe de l'acheteur, ça c'est sûr ça. D'accord ? Il y a plus de probabilité, il y a plus de personnes, donc il y a plus de probabilité que ça tombe de l'acheteur, que ça c'est sûr.
Parce que dans la journée, une personne ne s'est pas tombé deux fois de l'argent.
Je comprends. Ça c'est sûr.
Oui.
Sauf qu'il te dit plus que ça. Tu dis même s'il n'y a eu qu'un seul acheteur,
oui.
Que dans ce cas-là c'est 50-50.
Oui.
Le principe qu'on a dans ce cas-là, c'est qu'on garde la présomption initiale. On garde l'état initial. Et si tu veux enlever l'état initial d'un objet, c'est-à-dire l'état initial, c'est qu'on sait que l'argent, quand il arrive ici,
d'accord.
C'est de l'argent de mal à faire.
Oui, parce qu'il y a plus
toi, tu veux me dire maintenant, non, on sait que les gens, toute l'année, ils achètent leur viande avec l'argent de mal à faire. Donc l'état initial de cet argent, c'est quoi? C'est de l'argent de...
Ah, pas 100%.
Non, c'est sûr. Non, 99%. Les gens à Jérusalem achètent toute l'année leur viande avec ça. C'est connu, ça, c'est on le dit. C'est le cas est comme ça.
Il n'y a jamais de cas où les gens les achètent
non,
comme ça.
Je n'achetais pas. 99,9%. Il y avait tellement d'argent qu'ils achetaient avec leur salaire. C'est un fait, c'est une réalité. C'est comme ça. Les gens achetaient avec l'argent de Maaser Sheni. Donc.
Ça faisait partie du business. En
c'était normal, voilà. C'était un business. C'était comme ça.
Quelqu'un qui était en service,
donc,
il pouvait pas manger.
Certes, ok, ça c'est le demi-pourcent qui reste. Mais probabilité, c'est sûr que l'argent qui vient ici est de l'argent de Maaser Sheni. C'est sûr. Toi maintenant tu veux enlever la présomption de Maaser Sheni, tu veux dire que cet argent-là a déjà été transféré. Je dis si tu veux me dire ça, il faut une preuve. Tant que t'as pas de preuve, l'argent reste. Tant que t'as pas de preuve, on a un nouveau client, votre chef.
Quel plaisir.
Tant que t'as pas de preuve, l'argent garde l'état initial, donc il reste Maaser Sheni. Voilà, on va prendre un café, on va faire Hazara. Ça va, tu sais.